sky, watching stars align. Days of making sweet honey, Melissa lemon balm. Nights as warm as your breath on my chest, so calm.
Allô les amis. Alors attendez, je suis un peu en retard, je n'ai lu aucun message du chat, mais je vais me rattraper. On commence par régler la caméra, bougez pas. Hop. Merveilleux. Parfait. Oh, que je vous vois bien en 240 Hz. Il y a eu de l'investissement dans les écrans ici. Ok. Vous allez bien? Allez, attends, d'abord, première chose, remonter le chat et voir si j'ai manqué des choses importantes. Je vois du hello, du bonjour, de la bonne humeur, ça c'est important, ok. Je vois du Free Palestine, la zone du cul, on va en parler ce matin, j'ai de beaux articles à ce propos. L'humanité parle même d'une semaine cruciale pour la Palestine ce matin, ça une, tu vas voir. Quoi d'autre, cette musique me rend nostalgique, la zone... Ah bah ça, toi aussi, bah, décidément, tu es très... toujours la zone qui est très présente ce matin, à la fois sur la musique et sur... Le Proche-Orient. Energix, merci pour ce 46e mois. Brice, merci pour ce Prime. Sugar Frog, mon ami, merci pour ce 18e mois de soutien. J'espère que vous étiez nombreux sur le stream au Louvre hier soir. J'ai passé une très bonne soirée. Klamakin is back, je sens que cette revue de presse va être explosive. Pourquoi non? Il n'y a rien de spécial. C'est toujours, l'actualité est toujours aussi compliquée. C'est comme tous les jours, en fait, depuis 5 ans. Il n'y a vraiment rien de particulier. Grégorio, est-ce que les journaux auront eu le temps de capter la nouvelle? Je me demande. Quelle nouvelle? Parce que le problème, c'est que le matin, nous, on parle des nouvelles. De beaucoup de nouvelles, tous les jours. Et du coup, accumulé sur 5 ans, ça fait beaucoup, beaucoup de nouvelles. Et donc, je suis même sur l'historique de ton compte, et c'est ton premier poste ce matin. Donc, est-ce que les journaux auront eu le temps de capter la nouvelle? Je me demande, mais du coup, quelle nouvelle? Ah! Et si je pose la question au chat, je pense que j'aurais autant... Tu pensais à l'Iran. Alors, d'accord. Ok, tu pensais à l'Iran. Et à quel moment je suis censé le deviner? Ok. Ok, l'Iran. Ok. Alors, allons voir. Ok. Bah, de toute façon, nous, ici, c'est notre job. Hein. On lit les journaux le matin. Et si c'est pas dans les journaux et que c'est important, on va voir. On va voir. Et on va en parler. Ok. Non, mais que vous êtes des accros aux chaînes d'infos en continu, vous. Vos notifications sont allumées sur vos téléphones. Voilà. Et ça, moi, je me refuse à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, l'information, il faut la suivre. Il faut, pour être un citoyen éclairé, s'informer un petit peu. Voilà. Mais par contre, la dictature de l'information en continu, être branché sur l'actu non-stop, ça, c'est un truc que je vous dis régulièrement. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça, en fait. C'est très mauvais pour votre santé mentale. Virez-moi toutes les notifications d'actu sur vos téléphones, sur vos ordis, sur vos iPads. Arrêtez d'être biberonné aux chaînes d'info, on continue, quoi. Donc, franchement, non, ne faites pas ça, quoi. Vous allez vous niquer la tête, quoi. Voilà. Ok, donc il s'est passé des trucs avec l'Iran ? Bah, allez voir. Je vire les notifs de ton stream, du coup. Ce stream n'est pas une chaîne d'info en continu. Voilà, on te propose du Edge of Empire, on propose des visites au Louvre, on te propose du Valorant. C'est pas une notification d'actualité. Enfin, je ne fais pas encore l'actualité. Et Dieu m'en préserve, j'espère que je ne ferai jamais l'actualité. Hein. Chill, tranquille. Je n'ai pas viré les notifs d'actu sur mon tel ni sur ma tablette, mais en fait, je les efface sans les lire. Vire-les en vrai. Alors, voyons l'actualité. Ok. Le Monde me semble être une source plutôt ok. En direct, attaque d'Israël contre l'Iran. L'attaque iranienne promet une riposte sans limite. L'État hébreu a mené des bombardements tôt vendredi contre des sites militaires et nucléaires à Téhéran et à Natanz. Je pense que ça n'est pas une première. On va creuser là-dessus. Les gardiens de la révolution, l'armée idéologique du régime iranien, ont juré de venger la mort de leur chef, le général Hossein Salami. Ok. Ah oui, le chef des gardiens de la révolution iranienne était tué. Ah ouais, ça c'est un coup, ça. Ok, bon, on va se pencher sur ça dans un instant. Ah, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment intéressant. Pour le coup, les journaux n'ont pas pu l'intégrer dans les versions papier, dans les versions PDF. Mais vous voyez que ces mêmes journaux que je vous lis le matin dans la revue de presse, sur leur site internet, bien sûr, ont déjà pris en compte cette actualité. On va commencer par ça. Dans un instant. Mais je vous lis d'abord, c'est mon petit plaisir du matin. Ouais. Merci Sodam Craft pour ce 17e mois. Merci Ropra pour le Prime. Merci Brice pour le Prime. Vous êtes formidable, merci de vos soutiens. On a fait un petit changement sur la chaîne d'ailleurs au niveau des replays. Hier, on l'a fait en live. C'était beau de voir AlphaCast conserver son invincibilité au Louvre hier soir. Gérard, c'est un bon souvenir ça. Oui, Slayer pour Slayer m'interroge sur le stream d'hier. Franchement, j'ai été très heureux de ce live. Donc c'était un live assez ambitieux, dans le contenu, dans la forme aussi. Il y avait un peu de prod, vous l'avez vu, qu'on a géré avec Joe. Voilà, et le résultat était vraiment top. en termes de conducteur, je pense, de proposition, de qualité des invités, qui étaient formidables, les deux conservatrices, les deux commissaires de l'exposition consacrée au Mamelouk, deux femmes incroyables, deux femmes géniales, Frédéric, le développeur du studio qui travaille en ce moment sur Age of Empire, sur le fait que ce jeu, qui est déjà ancien, garde une présence très très forte auprès des gamers toujours, il y a même de l'e-sport sur Age of Empire. Alpha, bien sûr, qui est juste terrible. Et puis ce petit mix entre culture, histoire et jeux vidéo était vraiment cool. Et en termes de prod, voilà, ce qu'a fait Joe était vraiment super. Il faut bien imaginer que Joe, il est arrivé au Louvre avec tout le matos et avec toute l'équipe un peu plus de 2 heures avant le live. C'est-à-dire qu'il faut installer le PC de prod, le PC de stream, les caméras, notamment une caméra portée, la lumière, qui était très très belle sur le plateau principal, vous l'avez vu, le son, voilà, avec un garçon avec qui on a l'habitude de travailler déjà et qui est basé en Bretagne. Martin, notre DJ préféré, nous fait un raid à l'instant. Merci Martin, j'espère que tout va bien de ton côté. N'hésitez pas les modos à épingler cette chaîne de la bonne humeur et de la musique, c'est Martin qui vous ambiance notamment tous les matins. Voilà, c'est mon DJ préféré. Et donc, Joe, pour installer tout ça avec l'équipe, il a eu 2 heures, quoi. Et le résultat, il est vraiment au-delà de mes attentes, quoi. Donc, c'était un très beau live dans la forme et dans le fond, je trouve. Voilà. Ce qui est en replay, accessible dès maintenant, puisque avec la commu, puisque c'est une décision qu'on prend ensemble, on a pris une petite décision hier en plein live, hier après-midi, alors qu'on faisait du Edge of Empire 2, le tuto, en fait, on a enlevé le sub-only. Voilà, sur le replay. Moi, j'avais mis le sub-only en place il y a quelque temps pour un peu diriger les gens vers la chaîne YouTube, pour que les gens aillent sur la chaîne YouTube gérée par Mathieu pour les replays. Et puis, bon, il y a des gens qui trouvent quand même plus pratique Oh, qu'est-ce qu'il a, mon coussin, là? Vous savez, quelqu'un me dit, puis-je dire que le coussin du siège me trigger un peu? Qui a touché à mon... Quelle petite souris est venue Et donc, on a... Et puis finalement, c'est quand même... Beaucoup disaient que c'était quand même plus pratique pour eux d'avoir accès au replay directement, qu'ils soient abonnés ou pas. L'autre truc sympa, c'est que du coup, ça faisait quand même un avantage pour ceux qui s'abonnaient. D'avoir ce petit privilège rien que pour eux, l'accès tranquille à tous les replays. Mais en même temps, même les abonnés me disaient, dans notre échange d'hier, écoute, nous on est là d'abord, quand on somme, c'est pour te soutenir, c'est un soutien à la chaîne, à ce que tu fais, et c'est pas forcément pour avoir des avantages. Voilà, je vous avoue que c'est cet argument venant des abonnés et des subs qui m'a convaincu. Voilà, donc on a enlevé le replay, le sub only. Et du coup, vous avez accès à tous les replays de la chaîne Twitch. Easy comme ça. Voilà. Donc, et c'est aussi sur la chaîne YouTube, bien sûr. T'as entendu ta commu, encore une fois, tu démontes ton écoute active envers nous. Bon, on essaye, Jean. Bonjour Sam, j'ai une soutenance de mémoire lundi pour mon master. Quel conseil me donnerais-tu? Oh! Bah, je suis incapable de donner des. Je n'ai jamais soutenu un mémoire, moi, de ma vie, hein. Franchement, là, c'est hors de mes capacités. Par contre, si vous avez des conseils à donner à Kitagawa 59 qui passe lundi sa soutenance de mémoire pour un master, je sais que certains sont plus compétents que moi en la matière, n'hésitez pas. Mais subez-vous quand même, me dit Sugar, merci, trop gentil. Les deux commissaires de l'expo, Mamelouk au Louvre, étaient formidables. Merci, merci Dawal. C'était un très beau stream. Voilà, très beau stream. Et il y avait du monde. Ouais, le plus important, c'est le regard. Regardez le jury dans les yeux, me dit Emma. Par exemple, go au talent, c'est le conseil d'Alastair. Ouais, je veux bien des conseils aussi, me dit aussi Samy. Je m'angoisse comme jamais pour cette soutenance. Ok. Allez, je remonte le chat. Oui, il y a eu un petit problème sur Twitch par ailleurs hier. Salut Martin, je vois ton message. Ça va bien, merci et toi? Oui, Twitch a eu des petits soucis hier, c'est ça, aux alentours de 20h. Les conseils pour le mémoire. Aie confiance en toi, tu es capable, tu as travaillé pour ça, Pop Sinou, Sugar, tu as taffé sur ton mémoire, tu maîtrises ton sujet, pas de stress, le jury n'est pas là pour te piéger, c'est un truc que j'entends souvent dans les gens qui ont déjà passé des mémoires. Commence ta soutenance par une pause. Me dit Sloyer en regardant pour vérifier que ton public est disponible pour t'écouter, ça permettra de te poser. Ah, Tout est déjà joué, dit encore Guibou Guibou, c'est un propos assez rassurant. Tu l'as écrit, tu connais ton sujet, ça ne sert à rien de stresser outre mesure. Pas de stress, il y a point S, me dit Jordi Babette. Pas que Twitch? Ah oui. C'était pas un problème que Twitch hier. En vrai, les soutenances de fin d'études, me dit Weirdo, c'est plus une confirmation qu'un réel test. Ne vous stressez pas, vos profs ne sont pas là pour vous plomber et vous refusez votre diplôme. Bon, c'est assez rassurant tout ça. J'ai un message de taf là. Hello Nicolas, virgule, je suis en stream actuellement sur Twitch, point, mais je reviens vers toi au plus vite. Point. Bonne journée pour l'exclamation. Voilà. Petit projet. Merci Chris Proust, Chris qui me dit merci Samuel de refaire plus de revues de presse, ça manquait. Bon, voilà, j'essaie d'être plus présent sur l'actualité. La passion du gaming s'est emparée de mon âme, de mon corps et de mon cœur. Mais je mets un point d'exclamation après bonne journée. Ouais. Cyril, voilà. Exactement. J'aime beaucoup la ponctuation. Et donc, on essaye de faire, de refaire un maximum d'actu. On a fait une revue de presse lundi, mardi, pas mercredi, pas jeudi, ce vendredi. Et on reprendra la semaine prochaine. Quoi qu'il y a du question pour un champion qui doit arriver là. Non, mais c'est fin juin. Bon, on a encore un petit peu de temps. Merci Malbrise pour ton message qui est trop gentil. Je ne le lirai même pas parce qu'il va me faire prendre le melon. Merci à toi. Preuve, tu es la preuve vivante que tous les que les vieux ne sont pas tous cons. Merci Faucon. C'est drôle, c'est Faucon qui parle des vieux cons. C'est étonnant. Salut tout le monde, j'ai le bac STMG lundi jusqu'à mercredi. Est-ce que quelqu'un aurait des techniques pour réviser? C'est-à-dire Alpha Jet, tu as ton bac lundi. Tu nous demandes aujourd'hui, vendredi, des techniques pour réviser? C'est-à-dire réviser. Rassure-moi, les révisions sont faites là. T'es à J-3 là. En fait, merci Deus Kiwi pour le 3e mois. Merci Gaga pour le 14e mois. C'est fait là. Là, il n'y a plus qu'à. On n'a plus qu'à se reposer un petit peu là. On est d'accord? Non? Hein? Certains disent commence par quitter le live. Dis donc, Minos, on va se calmer, hein? C'est quoi ce cocktail illégal là? Je suis avec mes parents. Oh, ça c'est intéressant. Plan d'âle. Je suis avec mes parents pendant quelques jours. J'entends du Pascal Pro toute la journée. Je comprends maintenant pourquoi les générations ne se comprennent pas. Nous n'avons pas les mêmes infos. Ouais, exactement. Mais oui. Alors, je suis prof de STMG, me dit Nico. C'est simple. Mets sur des fiches toutes les notions les plus importantes et les formules qui tombe tout le temps, tu en as une vingtaine et tu relis à l'infini et tu essaies de te les remémorer sans lire. Voilà un conseil. Voilà, fais les annales, c'est jamais trop tard, me dit Marshall. N'essaie pas d'apprendre par cœur, c'est trop tard, me dit Arnaud. Essaie de comprendre les raisonnements, ça t'aidera peut-être le jour J. Y a Joe qui est là? Joe, t'étais pas là quand je l'ai dit, mais je t'ai remercié en live à l'instant pour le stream d'hier. Bon, le chat est très animé ce matin sur plein de petits trucs. Je vois que vous avez apprécié la soirée d'hier. Oulou, ça me fait bien plaisir. J'ai ramené un truc du Louvre hier. J'ai ramené un. Elle est allumée ma lampe à lave là? Ouais, elle commence à chauffer, je crois. Ouais. Un petit verre, parce que j'aime bien ramener des souvenirs de mes streams. Alors, je voulais ramener un vase du Louvre, un de ces vases mamelouks dorés là, incroyable. Bon, mais il y avait trop de sécurité, les verres de protection semblaient incassables. Et la sécurité me regardait quand même avec insistance, quoi. Comme j'avais annoncé en live deux fois que j'allais essayer de piquer un vase, voilà, je me suis tenu à carreau, on me regardait quand même, on me regardait, voilà. C'est marrant, quand je bougeais, j'avais toutes les caméras du Louvre qui étaient tournées vers moi. Voilà. Et donc, bon, du coup, j'ai ramené ce verre. Edge of Empire. On peut plus rien faire de toute façon aujourd'hui que la machine, je suis d'accord. C'est incroyable, ça peut même plus. J'ai quand même fait un stream au Louvre, j'aurais pu ramener un goodies, je sais pas moi, la Joconde ou je sais pas. Peut-être pas la Victoire de Samothrace, mais. C'est un verre d'époque, oui, c'est un verre de 2025, je crois. Voilà. Et donc j'ai ramené ça, Edge of Empire. Pas mal en vrai. Et non, j'ai pas la clim. J'ai chaud. Et un petit coussin. Edge of Empire. Ça, c'est un sorcier, je crois. Wololo, voilà. Exactement. Le Wololo. Le baiser de Clint. Non, c'est Klimt. K-E. C'est K-L-I-M-T, je crois. Clint, c'est Clint Eastwood. C'est autre chose. Attends, je vérifie, mais. Klimt, le baiser de Klimt, je crois que c'est K. Oui, c'est ça. Alors, Clint, C-L-I-N-T, c'est Clint Eastwood. Il a pas peint, lui. Enfin, je pense pas, hein. Voilà. Tu voulais parler de ça. Le baiser de Klimt. Du peintre autrichien Gustave Klimt. Mais le baiser de Clint, dont tu parlais, c'est peut-être sur la route de Madison, ce genre de choses, mais c'est autre chose. Donc, très beau coussin. Voilà. Il n'est pas au Louvre. Non, je pense pas qu'il soit au Louvre, en plus. J'ai cru que c'était des coussins à son effigie, je suis nul en gaming. Non, ah oui, ah parce que quoi, c'est un petit vieux qui a les cheveux gris. Oh, c'est Mimi. Oh, c'est Mimi. Ah oui, c'est vrai. C'est moi en sorcier. Il y a un air. Ok. En fait, il est. Puis attends. Bon, moi j'aime le bleu, donc je l'ai mis en bleu, mais j'ai rouge aussi. Voilà. C'est les gens du studio, Edge of Empire, qui étaient hier au Louvre. Hein. Je ne dirais pas Wololo Sugar. Et qui m'ont laissé des goodies. Ouais, puisqu'en fait, il y a quand même un partenariat entre le studio, entre Edge of Empire et le Louvre pour notamment la bataille d'Ain Jalut, qui a été reconstituée, qui a remasterisé, qui a été une nouvelle campagne sur Edge of Empire 2. C'est tout mignon, quoi. C'est un verre en verre, oui. Alexandra me demande si c'est un verre en verre ou un verre en plastique. C'est un verre en verre. Ah bah ici on est sur un stream de qualité. Hein. Salut Arduzik, vous êtes trop gentil. Si tu dis Wololo, les couleurs de son fond s'inversent. Wololo. Bleu quand tu wins sur Valo, rouge quand tu perds. Ah, c'est pas mal ça en vrai. Ouais, il va être souvent rouge alors, mais c'est pas grave. Tu vas continuer la campagne d'ailleurs? Ah, bah, complètement. En fait, ça m'a vraiment. Edge of Empire, c'est vraiment. Enfin, c'est un jeu qui est assez incroyable en vrai. Et donc, je pense que mon prochain stream de gaming va être consacré à Edge of, ouais. En vrai. Voilà. Il y aura du Valo aussi, mais Edge of va revenir bientôt. J'avais très envie de. Moi, j'ai un truc à France Télévisions au début d'après-midi là. J'ai un petit tournage. Et après, je vais revenir au studio, je pense, vers 17h. Et c'est les moines dans Edge of qui font ce bruit, ouais. Dans Edge of 1, pour être précis, Pololo. Bon, c'est pas celui que vient de faire Samuel. Est-ce que quelqu'un peut me faire le bruit en phonétique, le Wololo? Parce que, on peut le trouver sur Internet, peut-être. Et donc, je vais revenir au studio à 17h. Si je suis pas sérieux, je lance un stream de gaming. Edge of 2 et 4, on fera les deux. Et sinon, je pense que je vais aller courir. Alors, attends. Wololo. D'abord ça fait wo et après lo et après lo, d'accord. Est-ce qu'on n'aurait pas une vidéo? Je crois que je l'ai. Trop chaud pour courir? Ah moi j'adore courir par là. J'adore quand il fait chaud moi. Et en fait j'ai fini par comprendre. Moi j'ai eu la chance de faire des courses dans des endroits où il faisait très très chaud. J'adore courir l'été. Et je me suis toujours demandé pourquoi j'aimais ça. Mais vraiment, quand il fait très chaud, quoi. 30, 40 degrés, voilà. Bah, après, il faut faire attention, il faut s'hydrater, tout ça. Et j'adore ça. Et j'ai fini par comprendre que ça venait de mon papa, qui a une résistance à l'effort sous la chaleur qui est assez étonnante. Donc, il m'avait beaucoup parlé, mais j'avais jamais fait le lien, en fait. Et en fait, c'est un truc que je tiens de mon papa, c'est génétique. Et lui supportait énormément la chaleur. Et bon, il a pu l'expérimenter dans des conditions un peu particulières. Et j'ai le même truc. Voilà. Y a Chill Tito qui dit j'ai fait la rénovation des locaux de France Télé. La classe. Bravo. J'habite à Ajaccio pour le moment. La chance de Sissim, quoi. Je dois commencer une prépa marathon en août. C'est l'enfer pour moi. J'ai beaucoup de mal à courir sous la chaleur. Bon, c'est vrai qu'en Corse, l'été, il fait bien chaud quand même. Encore, je cours tôt le matin ou en fin de journée, quoi. Mais tu vois, en fin de journée, en Corse, bon, l'été, il fait chaud, ben, j'aime bien. J'aime bien. Je me fous. Voilà. Et j'aime de moins en moins le froid, par contre, ouais. Attendez, alors, j'ai trouvé un truc, là. Wololo, je sais pas si c'est ça. C'est ce Wololo-là? Le Wololo original? Originel? C'est génial. Wololo, mais il dit Ayo aussi. Ayo, qu'est-ce qu'il dit? Wololo. Ayo. Il y a Wololo, Ayo Ayo deux fois et Wololo. Je l'ai, je crois. Bon bah voilà, ma culture gaming s'étoffe encore un peu plus grâce à vous. Wololo, wayo, wololo. Bon, pas mal, pas mal, pas mal. Ça fait plaisir. Vous êtes 2000 à écouter mes. Vous êtes 2000 de bon matin à écouter mes yololo. Vous me régalez, quoi. Bien sûr qu'il ne revient pas ce matin, on va commencer, hein. Surtout, j'ai beaucoup de choses en plus. Donc on va y aller parce que de toute façon, faut que je vous laisse. J'ai rendez-vous en début d'après-midi à France Télévisions. Wololo, wololo, wayo, wayo, wololo. Est-ce que vous êtes OK pour un petit sommaire? Bon anniversaire, Juju Prime. Let's go sommaire. Ok, je vous dis ce qu'il y a dans l'actu ce matin. Voilà, il y a plein de choses. Hein. Bon, ça, c'est les notes du matin. Quand je lis les journaux, là, les journaux, je dis, tiens, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ce n'est qu'une toute petite partie de l'actualité. Ce n'est qu'une toute petite partie ce qu'il y a dans les journaux du matin. Voilà, c'est un regard subjectif, c'est le mien. Hein, ce serait vous, vous feriez une autre revue de presse, vous vous intéresseriez à d'autres actualités avec d'autres angles. Voilà, c'est une subjectivité qui est assumée ici. N'oubliez pas que ce que je vous lis n'est qu'une partie de l'actualité. Et ça passe au filtre de mes opinions et de mes valeurs, et donc il faut le prendre bien sûr avec prudence. Faites-vous votre propre regard sur l'actualité en multipliant les sources et en réfléchissant, bien entendu. Alors ce matin, on va parler du Proche-Orient, mais ce matin, je voulais d'abord revenir sur cette actualité que j'ai pas traitée ces 2 derniers jours parce que je n'étais pas en stream d'actu le matin. Et on commencera. Rappelez-moi de commencer par l'Iran. On fera un bifor sur l'Iran, ce qui n'est pas dans les journaux, mais on ira voir ce qui s'est passé pour essayer de comprendre. Sinon, dans les journaux, et donc il y a l'histoire de nos gens, avec le collégien, vous savez, qui a tué, qui a assassiné, puisqu'il y avait une forme de préméditation, hein, pas forcément sur cette surveillante d'ailleurs, mais voilà, il avait décidé d'agresser. Une surveillante, peu importe laquelle. Voilà. Donc c'est pour ça que je parle d'assassinat, j'ai comme une forme de préméditation. Donc j'y suis parvenu ces 2 derniers jours, parce que je n'étais pas en revue de presse le matin, mais en même temps, j'aime bien, vous savez, sur les choses comme ça, sur l'actu chaude, et qui parfois génère beaucoup d'émotions et de passions, j'aime bien justement prendre quelques heures, quelques jours pour réfléchir. À tête reposée sur le sujet. Bon, c'est jamais bon de réfléchir sur l'actu à chaud. On dit beaucoup de bêtises. Voilà. Et quand on laisse passer quelques heures, quelques jours, on apprend des choses, par exemple sur le profil du meurtrier, ce qui nous permet d'éviter de dire ces grosses bêtises qu'on dit tout de suite en sachant rien et en incriminant que sais-je, l'immigration, les réseaux sociaux, les jeux vidéo et que sais-je. Voilà. Donc on va revenir sur cette actualité avec Le Monde. Hop. Bon, le monde qui parfois nous fait en termes de capture, nous fait des petits soucis, c'est pas grave, je vais vous capturer l'écran, ça va se faire en 2-2. Hop, il est là, regardez. Tac. Ne bougez pas, je vous montre l'article qui se penche sur les faits et sur le profil du meurtrier dans ce collège. Hop, ne bougez pas, je vous le mets. Oui, la faute des couteaux aussi. Voilà, par exemple, voilà un truc, un piège dans lequel plein de gens plein de gens sont tombés, c'est bon les gars, il y a un problème avec les couteaux, il faut absolument interdire la vente des couteaux, empêcher l'accès des mineurs aux couteaux, hein, ça vous avez sûrement entendu, il faut légiférer, vous l'avez sûrement entendu dans les heures qui ont suivi le truc. Bon, après on a appris que le gamin était allé chercher le couteau dans la cuisine. Dans la cuisine familiale. Voilà. Donc là, évidemment, une fois qu'on a appris ça, tous les cris d'orfraie, les penseurs de la minute qui disaient « Ah ben voilà, c'est simple, il suffit d'interdire la vente des couteaux aux mineurs. Ben oui, donc qu'est-ce qu'on fait? On interdit les cuisines ?» Voilà, ben voilà. C'est pour ça que moi, j'aime pas réfléchir à chaud sur l'actualité, par exemple. Voilà, là, on a appris qu'il allait prendre un immense couteau dans la cuisine, quoi. Ça, voilà, tout simplement. Donc ça, c'est un exemple, justement, de ce que parfois prend le temps sur l'actualité. Permet d'éviter comme énorme bêtise, quoi. Voilà. Nos gens, collégiens en profil troublant, c'est l'article du Monde qu'on ira lire. Et alors, pourquoi troublant? Parce que l'adolescent qui a poignardé mardi une surveillante n'exprime ni compassion pour sa victime, ni regret. Le mec, c'est ce qui est le plus troublant dans cette histoire. Voilà. Et parallèlement, le Monde se penche sur le fait que le gouvernement songe à l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ce qui n'est pas directement lié d'ailleurs avec cette affaire, mais ça intervient au même moment dans l'actualité. Voilà. Donc on a 2-3 jours de recul là, sur notamment le profil et les motivations de ce collégien, et c'est ça qui est, intéressant de parfois prendre un peu le temps. Donc on se penchera sur ce sujet. Le deuxième sujet d'actualité dont je vous parlerai ce matin, c'est je crois là, est-ce que c'est la Palestine directement? Je me demande si je passe pas par Air India. Voilà. Si j'ai le temps, je vous montrerai le Figaro aussi, justement, sur cette histoire de réseaux sociaux. Regardez, la une du Figaro. Bon, ça, c'est une pub pour Louis Vuitton. Oubliez, c'est celle-ci. Voilà. Où est-ce que... Voilà. Réseaux sociaux, smartphones, la difficile protection des jeunes. Voilà. Alors, pourquoi les médias en parlent ce matin? C'est qu'en fait, Emmanuel Macron a annoncé sa volonté d'interdire les plateformes aux mineurs de moins de 15 ans quelques heures après l'agression mortelle d'une surveillante à Nogent. Alors qu'on sait, depuis que les réseaux sociaux ne sont pour rien, a priori, dans cette agression. Mais bon, il y a une concomitance dans le temps, et le Figaro propose un dossier assez complet sur ce casse-tête pour faire interdire les réseaux sociaux aux jeunes. Voilà. Même en désolidarisant les deux actualités, ça peut être intéressant de se pencher sur le sujet. Alors oui, Air India, voilà. Avec cette catastrophe aérienne, c'est le Parisien qui en parle notamment ce matin, je crois que c'est page 17, regardez. Merci Vicky Le King, espèce de king va. Je vous montre. Page 17, voilà, à la recherche des causes du crash, puisque... de ce que je crois savoir pour l'instant, on ne connaît pas les raisons de ce crash. Alors c'est une catastrophe aérienne dramatique, hein. Les dégâts provoqués ce jeudi par la chute d'un Boeing d'Air India qui a fait 265 morts sont colossaux. L'origine du drame reste encore mystérieuse. Les secours tentent toujours de retrouver des corps. Voilà. Je crois que c'est une des catastrophes aériennes au bilan les plus dramatiques de l'histoire de l'aviation, hein. Voilà. Est-ce que c'est de la présence d'eau dans les réservoirs qui aurait gelé en raison des températures négatives en altitude? Est-ce que c'est l'aspiration d'oiseaux par les réacteurs? Voilà, on est sur du mystère pour l'instant. On va se pencher là-dessus. Voilà, même s'il y a plus de questions. Oui, un seul survivant. Il y a un homme, effectivement, vous avez raison. Il y a un passager qui a survécu. Voilà, j'ai vu ça. Libération, on parle aussi. Peut-être qu'on ira voir l'article de Libération. Le siège 11A. Ouais, je crois que c'est bien ça, ouais. Complètement fou. Donc, je vous le disais, on va aussi beaucoup parler ce matin du Proche-Orient. Il y a beaucoup de choses intéressantes. Regardez cet article dans Libération pour commencer. C'est plus qu'un article, c'est la une de Libé. Ça, c'est un truc dont je vous parle depuis plusieurs jours parce que je pense qu'il se passe quelque chose autour de la Palestine. Hein. Alors, je vous parle depuis quelques semaines du fait que la France pourrait, pour la première fois, reconnaître l'État palestinien. Condition sine qua non, ça c'est une conviction personnelle, au rétablissement un jour de la paix dans la région. Voilà, c'est un minima. Il y a plein d'autres choses à faire, mais c'est un minimum. Voilà. Macron en tête d'une reconnaissance. À 4 jours du sommet de l'ONU, le président hésite. Rallié à l'idée d'un État palestinien, il s'active pour convaincre, mais face à de nombreux obstacles, Enquête, voilà. Libération nous explique que le président hésite à aller jusqu'au bout de son engagement. Rappelons qu'il a mis des conditions à la reconnaissance de cet État palestinien. Hein, des conditions un peu compliquées. Mais il y a un dossier dans Libération, on prendra le temps de lire, et c'est aussi la une de l'Humanité, l'UMA, qui est un journal qui est pro-palestinien historiquement depuis toujours. Et regarde la une de l'UMA, l'IMA ne s'y trompe pas, et parle également d'une semaine cruciale. D'une semaine cruciale pour la Palestine. L'initiative franco-saoudienne à l'ONU du 17 au 21 juin pourrait aboutir à une reconnaissance par Paris de l'État de Palestine, un acte fort, symbolique. C'est pas l'Élysée qui le dit, c'est l'humanité. On ne peut pas dire que l'humanité soit très très proche de l'Élysée. Un acte fort symbolique sur fond de mobilisation croissante contre la politique génocidaire de Tel Aviv. Les choses sont en train de bouger au Proche-Orient, autour de la Palestine. Et puisque les mots sont prononcés, la politique génocidaire, c'est un débat qu'on a eu des dizaines de fois ici, hein, est-ce qu'on doit parler d'un génocide vis-à-vis de la Palestine? Eh bien, j'ai un échange entre deux historiens que je trouve assez passionnant dans La Croix ce matin, sur ce sujet qu'on a déjà abordé, mais qu'on va continuer à aborder, parce que je le trouve essentiel. C'est page 4, regardez. C'est page 4? C'est page... Non, c'est pas page 4, c'est page... Je l'ai mal noté. J'ai dit que c'était page 4, mais c'est pas page 4. Ah si, ah si, c'est page 4. Regardez, deux historiens, que sont Henri Laurence, historien au Collège de France, et Jacques Semelin, directeur de recherche au CNRS, voilà, et qui sont d'accord sur ce sujet. Effectivement, ils estiment que l'État israélien s'est bien engagé dans un processus génocidaire. Voilà, donc voilà, on a déjà évoqué ce sujet, on va continuer à l'évoquer. Pourquoi? Parce que c'est un sujet compliqué sur lequel on a besoin de réflexion et d'éléments. Et quand deux historiens se penchent sur le sujet, pour le coup, je trouve ça assez intéressant. Voilà. Alors ici, on est là pour réfléchir à l'actualité et pas pour clamer ses vérités ou ses opinions. Le quel scoop point d'exclamation de Pouponton, par exemple. Bon, c'est une forme de réaction épidermique à l'actualité. Alors ici, on est moins sur l'affirmation de ses convictions à chacun qu'une volonté de réfléchir ensemble aux choses. Donc les quel scoop ou mais je dis depuis 10 ans, ou voilà, c'est une évidence. Il y a pas d'évidence. Ici, on est là pour réfléchir et pour échanger, pas pour affirmer des choses. Sinon, moi, je vais vous dire, c'est simple, hein, le matin, je lance le stream, je dis, bon, les gars, Gaza, c'est un génocide, point, pas de débat. Nos gens, c'est simple, c'est la faute des couteaux, il faut interdire les couteaux, point. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Les jeux vidéo n'ont aucune responsabilité dans une forme de tension chez les jeunes ou l'attrait pour la violence. Point, zéro, fin du débat. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Puis au bout de 10 secondes, j'ai fini ma revue de presse, je cut et je lance mes streams de jeux vidéo. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc je comprends, hein, que sur certains sujets, on soit un peu passionné parfois et on veuille clamer au monde ses opinions. Essayez de comprendre la philosophie de cette chaîne, qui est plutôt de réfléchir ensemble, en fait. Voilà. Donc, le quel scoop, point d'exclamation, le pire, c'est que je suis d'accord avec toi, mais ça n'a aucun intérêt de l'affirmer. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui est intéressant sur... Alors, on n'est pas sur CNews, quoi. Et c'est pas parce que je suis pas d'accord avec vous, tu vois, je peux être tout à fait d'accord avec toi, et en même temps... De clamer nos opinions au visage les uns des autres, ça ne fait jamais avancer le schmilblick. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas convaincu qu'on est dans un processus génocidaire à Gaza, ton quel scoop ne va jamais le faire bouger. C'est ce que j'essaie d'expliquer en fait. Ne va jamais le faire changer d'opinion. Voilà. Ton opinion, elle doit être soutenue par des faits, par une explication, par une démonstration. Voilà. Quelqu'un qui ne va pas être d'accord avec ton opinion sur ce point précis, par exemple, si tu ne fais qu'affirmer ta conviction de façon un peu comme ça brutale, en fait, au pire, tu vas le braquer. Au mieux, bah, tu vas pas le convaincre, tu vas juste d'affirmer un truc comme ça. En revanche, si tu es dans une forme d'échange en essayant d'expliquer pourquoi tu penses ça, voilà, par exemple avec une réflexion d'historien, eh bien, je pense que c'est plus intéressant. Voilà. C'est ça que je veux dire. Allons, on continue, parce que là, on n'est que dans l'introduction. Au passage, merci Kalel pour le 5e mois d'abonnement. Donc, une grosse page Proche-Orient ce matin, vous le voyez encore. Voilà. Mais bon, c'est un sujet sur lequel il est essentiel de passer du temps. Alors, vous voyez, en une de la Croix, là, le journal sur lequel j'étais, il y avait un sujet qui est incroyable. Là aussi, c'est un sujet compliqué. Alors, j'étais un peu interloqué par ce sujet au début. Moi, je ne connais pas trop le sujet, mais je ne savais pas qu'on en était à cette réflexion. Adoption internationale, la fin d'une époque. De nombreux pays interdisent cette pratique d'aller adopter des enfants à l'étranger. Pratique encore très répandue au début du siècle. Voilà. Depuis 3 ans, les adoptions internationales par initiative individuelle sont interdites. Voilà, il faut désormais passer par les instances officielles dédiées pour voir cette démarche aboutir, et c'est tant mieux. Voilà. On est en train de découvrir l'ampleur des pratiques illicites qui consistaient pour beaucoup d'intermédiaires à user en toute impunité des enfants comme d'une marchandise. Voilà, exactement. Et en fait, on est en train de changer de valeur sur ce sujet. Les familles face à la fin de l'adoption internationale, voilà, de plus en plus de pays se dirigent vers l'interdiction de l'adoption internationale en cause des révélations de pratiques illicites qui ont semé le doute et entraîné un durcissement des règles. En France, parce que La Croix est un journal qui est un journal qui est, moi, que je trouve d'immense qualité. Le journal est aussi allé voir les familles qui ont fait ça, qui ont adopté des enfants étrangers à une époque. Et en France, les familles concernées sont confrontées à un regard très critique sur la manière dont elles se sont construites. Voilà. Et ces familles, elles disent, à une époque, on était considérés comme des héros, ce que nous n'étions pas, parce que nous avons adopté des enfants de pays souvent pauvres. Voilà. Et nous ne méritions pas ce regard. Et aujourd'hui, on est regardés au contraire comme des criminels. On a regardé de travers et nous ne méritons pas plus ce regard. Donc on va parler aussi du trouble de ces familles. Je trouve ça assez intéressant, quoi. Ensuite, donc après ce sujet, c'est la première fois que je le vois pop d'ailleurs dans la presse de façon aussi complète. On parlera de quoi? Donc La Croix, c'est... ouais, et on parle... Ah oui, la taxe Zucman sur les ultra-riches, qui n'a pas été adopté là par le Parlement, c'est intéressant, c'est dans Libération ça. Parce que vous savez que le gouvernement français, l'État français est à la recherche de 40 milliards d'euros d'économies là pour le prochain budget, parce que bon, les caisses sont vides et rien ne va plus. Et donc on cherche des sous. Et donc il y avait une proposition qui était faite, qu'on appelle la taxe Zucman, qui pouvait ramener, mais littéralement, beaucoup d'argent. Il y a très peu de réformes qui peuvent rapporter autant d'argent. Et les sénateurs viennent de rejeter cette taxe. Voilà. Voilà. Donc c'est un, je vous rappelle ce que c'est cette taxe Zucman, c'est un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des... Alors certains disent les riches, non, non, ce n'est pas les riches, c'est les ultra-riches. Voilà. Donc principe adopté par l'Assemblée. Hein? Donc certains mélangent les députés et les sénateurs là en accusant les deux. Non, non, les députés ont validé ce texte, ce sont les sénateurs qui ont dit non. À 188 voix contre, 129 pour. Le dispositif fiscal inspiré par les travaux de Zucman, c'est pour ça qu'on l'appelle la taxe Zucman, aurait concerné environ 1800 personnes. Voilà. C'est quoi la diff entre riches et ultra-riches? Ben voilà. C'est les 1800 personnes les plus riches de France. Voilà. Hein? Avec un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros. Voilà. 0,01% des contribuables. Donc c'est très très peu de personnes. Cette taxe aurait rapporté, selon les chiffrages, entre 15 et 25 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. On cherche 40 milliards d'euros d'économies en France. 15 à 25 milliards d'euros. C'est énorme. C'est énorme. C'est gigantesque. Voilà. Et l'idée, c'était en fait une espèce d'impôt minimum, parce que vous savez que les ultra-riches, en fait, savent comment faire pour, en fait, proportionnellement à leurs revenus, à leur fortune, payer très peu d'impôts. Voilà. Notamment par différents biais, et notamment en laissant les dividendes dans l'entreprise. Voilà. Et donc, il y a une espèce d'impôt minimum qui a été imaginé, qui aurait rapporté cette somme. Pourquoi les sénateurs ont dit non? Alors, on lira les arguments, hein, des sénateurs. Mais alors, le regard de Libération là-dessus, c'est que on finira par le faire. Libération prend un exemple historique, et Libération est persuadée qu'un jour ça va être voté, ce genre de truc, mais que là, il y a une espèce de résistance sur ce sujet. Sam, rassure-nous, tu n'es pas dans les 1800. Je ne suis pas dans les 1800. En toute transparence, combien on a de subs actuellement sur cette chaîne? 2529. 2529 abonnés. Voilà. Donc on n'en est pas loin. Alors, on n'est pas loin des. Je suis pas loin des 100 millions d'euros. Voilà. Pas loin, mais il faudra encore quelques subs. Voilà. Je suis pas loin. En vrai, je suis vraiment pas loin. Encore quelques. Il manque pas grand-chose. J'avoue. Donc on parlera de ça quand même. Ouais. J'adore ce débat. Ça me semble important. Merci Kings Layers qui vient de lâcher son prime et qui me rapproche donc des 1800 Français les plus riches. L'autre actu dont je voudrais vous parler ce matin... Ah ouais. C'est vraiment des sujets très lourds ce matin, mais bon. Ouais. Tant pis, on n'est pas là pour se voiler les yeux, même sur les sujets les plus... compliqués, les plus polémiques. Je vais vous parler de violence policière. Il y a un article qui est incroyable dans Libé. Qui est quoi ? Qui est page quoi ? Qui est page 12. Oh, qui est un article de fou. On va parler de l'Iran dans un instant, bien sûr. Oh. Violence policière. Al-Hussein Camara, mort loin des regards. 2 ans après son décès. L'intérêt de la presse écrite aussi, c'est une presse qui, en fait, n'oublie pas les choses. Le Internet, les chaînes d'infos continuent, c'est une info chasse l'autre, il se passe un truc à 9h, à 10h il se passe un autre truc, le truc qui s'est passé à 9h on oublie, c'est pas grave, on a fait de l'audience, on a fait un débat, il y a des mecs qui ont gueulé en plateau, let's go, on est première chaîne d'infos en France, on s'en fout quoi. La presse écrite c'est une presse qui n'oublie pas. Là Libération revient sur une affaire qui s'est passée il y a 2 ans. 2 ans après son décès, les proches de ce jeune homme guinéen qui avait 19 ans, par un agent de police près d'Angoulême, font vivre le souvenir d'un jeune homme apprécié et sans histoire et dénoncent la criminalisation dont il a fait l'objet, notamment par les syndicats de police, qui lui ont inventé un peu un passé criminel. Une marche pour la justice est organisée samedi à Angoulême et en fait Libération revient sur cette histoire. Voilà. Raconte l'histoire de cette mort, des conditions de cette mort, d'un jeune homme qui allait au travail ce matin-là dans sa voiture, qu'il venait de passer son permis. Voilà. Parle des zones d'ombre de cette mort, parce qu'il y a franchement un truc chelou, et donne la parole aussi à ses proches pour décrire le jeune homme qu'il était. Voilà. Et franchement, quand on lit l'article, on se dit qu'il y a un truc qui ne va pas. Est-ce que tu as un cheat code pour être abonné à tout ça ? Non, je leur dis, bête, je suis abonné à tous ces journaux, parce que je les aime, parce que d'y être abonné, c'est une forme de soutien. Moi je dis ces journaux il faut les lire sinon ils vont disparaître. Tiens ce matin il y a un truc dont je vous parlerai pas, mais l'Humanité en dernière page lance un peu un appel au secours parce qu'ils ont plus de thunes. L'UMA qui s'est lancé sur Twitch il y a pas longtemps. Voilà, je crois que c'est Fabien Gay, le directeur de la rédaction de l'Humanité, qui lance un appel. Ils ont besoin de je sais plus combien ils ont besoin de sous, hein. C'est énorme. Attends, je vais aller voir. Bon, l'UMA c'est un journal qui structurellement est en difficulté financière depuis longtemps, hein. Qui en fait n'est sauvé que par ses lecteurs et par ses abonnés qui de temps en temps rajoutent de l'argent en plus de leur abonnement. Hein. Ils reçoivent pas assez d'argent public. Season. Alors ça aussi c'est une idée reçue. L'argent, le fameux argent public reçu par la presse écrite, l'argent public reçu par la presse pour aider à la distribution, c'est que dalle, hein, par rapport au budget dont tu as besoin d'un journal. Voilà, c'est vraiment... on l'a déjà débunké ici, cette info, je ne peux pas le refaire à chaque fois, mais oubliez ça. Voilà. Là, l'Humanité, ils ont besoin de... Non, c'est pas 40 millions, 4 millions. Non, j'ai une bêtise. Ils doivent trouver 1 million d'euros avant la fin du mois d'août pour faire face à l'explosion des coûts et frais externes, impression, distribution et postage, et au montage de la fête de l'Humanité. Ils ont besoin d'un million d'euros. Et l'Humanité, alors moi je suis habitué, l'Humanité, très régulièrement, ils lancent un appel à ses lecteurs pour que les lecteurs, en plus du journal qu'ils achètent, en plus du journal où ils sont abonnés, ils font des dons en plus, quoi. Et régulièrement, l'Humanité publie, je ne sais pas si c'est le cas cette fois, mais de temps en temps, une double page avec tout le nom des donateurs à l'Humain. Voilà. Donc, pour répondre à la question, est-ce que j'ai les journaux ? Moi, ces journaux, je pourrais les avoir gratuitement. Il suffirait que je demande à ces journaux de me les envoyer. Mais je trouve important, alors que ces journaux sont souvent en difficulté financière, de les acheter, puisque je peux le faire, et de s'y abonner, c'est vraiment le minimum. Là, je me suis demandé ce matin, par exemple, comment je pouvais aider l'Humanité, par exemple. Qui est pas forcément c'est un des journaux que je lis, c'est pas forcément le plus proche de mes propres opinions, même si c'est un journal que je trouve de très grande qualité. Alors moi, je me suis dit, est-ce que tu peux... Voilà, bon, j'ai vu que c'est un don qui est considéré comme un don à une association, je crois. Et donc, Là, tu peux enlever 66% en termes de réduction d'impôts, quoi. Donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un don à faire à l'humanité ? Voilà. Mais bon, le million, je ne vais pas pouvoir faire, quoi. Comme je suis encore loin des 1800 Français les plus riches, je ne vais pas pouvoir sauver l'humanité, quoi. Mais bon, c'était l'occasion d'en parler rapidement. Donc on parlera de cette histoire de mort de ce jeune homme là, et puis on finira par une actualité un peu plus légère. Hein. C'est la plus légère ce matin. Voilà, c'est le bac français. Voilà. Qui nous en parle? C'est le Parisien. Non, c'est page 10 dans le Parisien. On va parler du patrimoine des ministres. Pourquoi, il y a une actualité, Ténéry, ou pas? Ou c'est juste le café du commerce et t'as envie de parler du patrimoine des ministres? Il y a une actu là-dessus ou pas? Pourquoi le bac français reste une épreuve importante? Salut Jeannot. C'est le jour J pour 535 000 élèves. On pense fort à eux ce matin. Il y a des chiffres qui sont sortis, les déclarations de revenus. Il y a des gens qui sont très très riches. Et alors, il y a vraiment des trucs de fou ou pas? La moitié sont millionnaires? La moitié des ministres sont millionnaires? Waouh! Plus de la moitié du gouvernement est millionnaire d'après leur déclaration de patrimoine? C'est pas mal en vrai. 23 millions pour un ministre? Bordel, c'est qui? Attends, il y a un ministre qui a 23 millions de patrimoine? C'est qui? Bordel. Faire quoi? Ferracci, c'est qui? Ok, je vais aller voir. 23 millions, c'est beaucoup quand même. Hein. Marc Ferracci. D'accord. Ministère de l'Industrie et l'Énergie, d'accord. Ok. Donc, bah, tu sais quoi, on va aller faire un tour là-dessus aussi. Mais après Israël et l'Iran. Alors, vous me rappelez, on commence par l'Israël et l'Iran, et après, on ira voir le patrimoine des... Et Rachida Dati a oublié de déclarer des bijoux. Tiens, bah, Rachida Dati, on en parle pour une autre actualité ce matin. Ok, cette revue de presse va durer 10 heures. D'accord. C'est le jour J pour plus de 535 000 élèves de première générale et technologique. On pense fort à eux qui planchent ce vendredi matin sur cet écrit, à l'heure où on parle. Là. C'est le seul examen national présent dans Parcoursup. Voilà. Et en gros, j'ai appris par l'article que bah, pour la suite, en fait, il y a pas mal de filières d'études supérieures qui, du coup, regardent avec attention les résultats au bac français parce que c'est pas du contrôle continu, quoi. Contrôle continu dont ils soupçonnent certains lycées de gonfler un peu les notes pour ne pas handicaper les élèves par la suite, quoi. Donc là c'est des copies anonymes, donc du coup le résultat que bac français sont regardés avec beaucoup d'intérêt, quoi. Voilà. Donc on va regarder ça, ce sera la petite info de fin. Bon, on se dépêche parce que vous avez vu, il y a une actu de fou ce matin parce qu'il y a tout ce que j'ai prévu de tout ce dont j'ai prévu de vous parler ce matin. Il y a beaucoup beaucoup de choses et il y a aussi les actualités qui sont ajoutées, le patrimoine des ministres à l'instant, je trouve ça très intéressant, merci à la personne de me l'avoir signalé, et évidemment les frappes d'Israël contre l'Iran, on va commencer par ça. Je vais juste aller chercher un truc à boire parce que, comme on va parler pendant 3 heures là, j'arrive. On y est. Petit Red Bull du matin. Petit Red Bull Light. Hein. Tu devrais installer un petit frigo RB à la cool. RB. Red Bull? Oh bah non, ouais. Je suis pas sponsor, hein. Attends, le jour où il me file de la thune, Red Bull, là, pour m'aider à rentrer dans les 1800, il y a le frigo, hein, mais pas avant. Hein. Red Bull, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. Bande de rats de chaud, hein. C'est des gros rats, ouais. Je me les achète, mes canettes. Hein. Ouais. Lâchez votre thune. Red Bull. Hein? Putain, tous les jours, je vous fais de la pub gratuite en live, là. Hein? Pas une canette. Rien. Fou, ça. Tiens. J'espère qu'ils peuvent attendre pour le frigo. Hein. Non. Pas un frigo, moi, je veux une sponsor, eh oh. Sérieux. Après ce message, tu n'es pas prêt de les voir à ta porte. Je m'en fous. Attends. Hein? Ils me le doivent. Je parle pas d'une palette de Red Bull ou d'un frigo, moi. Je parle de... Qui sponsorise la matinée Étienne, tiens. Hein? Voilà. Qui soutiennent un petit peu une volonté de s'informer en toute indépendance, quoi. Sérieux. Merci Damos pour le 30e mois, heureusement que t'es là. Merci Sadjo. Il n'y a pas Red Bull, mais il y a Sadjo. Merci pour le 8e mois. Merci Mr. Click, heureusement que vous êtes là. Merci pour le Prime. Ouais. Ils sponsorisent déjà Gotaga. Bon, s'ils sponsorisent Gotaga, c'est ok, parce que j'aime beaucoup Corentin. Ok. C'est ok. Oh oui, demain il y a un stream à Vivatech. Demain on est en direct de Vivatech, le salon de la tech, avec un MVP. Tiens, j'ai oublié de vous parler de ça. Il y a Dadine qui bosse peut-être chez Red Bull et qui vient, c'est quasiment... Dadine, il vient quasiment de sponsoriser la chaîne, qui vient d'acheter 20 abonnements pour la communauté. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, pas 10, pas 11, pas 12, pas 13, pas 14, pas 15, pas 16, pas 17, pas 18, pas 19, mais 20 abonnements à la communauté. Dadine, merci, tu régales. SBN, merci également pour le Prime. Gayfish, merci pour le Prime. VB Fox, à l'instant, merci pour le 16e mois. Vous êtes trop gentil. Voilà, vous êtes formidable. Donc oui, effectivement, demain, on stream en direct de Vivatech, le salon de la tech. Voilà, hop, regardez. Puis alors, c'est une belle affiche. Là, c'était hier soir au Louvre, la préparation du live. C'est en replay sur Twitch et sur YouTube, gratuitement. Merci Marcounet premier pour le 12e mois. Voilà, et hop, regardez-moi ça. Alors, on sera en direct, c'est à partir de 10h, je crois, 10h30, demain. D'abord avec Ludovic B, mon fidèle partenaire de MVP, Ma Vie Pro, l'émission qui explore les voies professionnelles. Pour que chacun puisse trouver la sienne, on va se promener dans les stands, ouais, pour aller voir certains stands de Vivatech. Okay. Après, on va monter, mesdames et messieurs, merci Nyandra pour le 21e mois. Jean Perse, merci pour le soutien. Vous avez déclenché un train de la hype. Voilà. Sur la grande scène, mesdames et messieurs, de Vivatech, merci Tommy Moza pour le Prime. Toi, j'ai bien fait de gueuler contre Red Bull, ça... il y a une pluie de subs. Voilà. Donc avec Ludovic B, on va se promener IRL. Après, on monte sur la grande scène. On sera rejoint par Micode, que vous connaissez bien, voilà. Le créateur de contenu. Esterium, qui est une créatrice de contenu spécialisée notamment sur l'IA. Voilà. C'est la première fois que je la reçois. Micode, il est top. Voilà. Et attends, c'est pas tout, parce qu'il manque quelqu'un sur la photo. Il y a Pépé Garcia, l'ami Pépé Garcia, alors, passionné de tech évidemment, qui sera aussi avec nous. Voilà, et on fera un joli plateau comme ça, et on débattra notamment des emplois liés à la tech. Aujourd'hui, en 2025, quels sont les emplois liés à la tech, quel secteur embauche, quelle formation, etc. Merci Jean Perse, c'est gentil. J'apprécie vraiment ce sub. Et donc, ça va faire un joli stream. Voilà, c'est genre 10h, 13h demain, quoi, un truc comme ça. Quoi. Pas mal, non ? Voilà où ? Ben, je vous attends demain. Ça stream, hein ? Ça stream, hein ? En plus, Pépé, c'est un mec super. Voilà. On commence par l'Iran. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Regardez. On a trouvé un article dans Le Monde hier. Bon, c'est vous qui m'avez alerté cette actualité. Actualité qui n'est pas dans les journaux papier ce matin, et pour cause, c'est tombé trop tard. Mais ces mêmes journaux, sur leur site internet, bien sûr, réagissent au plus vite. Et donc, c'est Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution iranienne, qui a été tué à Téhéran par une frappe israélienne. L'aviation israélienne a mené dans la nuit du 12 au 13 juin des frappes israéliennes sur l'Iran, il y en a eu d'autres. C'est pas une première. Une série de frappes dans plusieurs régions en Iran. Le chef des gardiens de la révolution a été tué. Manifestement, les bombardements étaient visaient quelqu'un en particulier. Le chef d'état-major iranien a également péri. Ah oui, le chef d'état-major iranien, le chef des armées iraniennes a également été tué. Ouais, c'est un sacré coup pour l'Iran, quoi. Voilà. Alors, Hossein Salami, le chef du corps des gardiens de la révolution islamique, Alors, c'est quoi les gardiens de la Révolution? On va y revenir, Marie-Dionne. On va y revenir, tu vois, c'est une très bonne question. Était connu pour ses diatribes contre Israël et l'Occident. Hein, si vous commettez la moindre erreur, nous ouvrirons les portes de l'enfer pour vous. C'est ce qu'il disait il y a encore un mois en cas d'attaque d'Israël ou des États-Unis. Alors, il apparaissait régulièrement à la télé dans des discours enflammés, relayant les attaques que lancent régulièrement les responsables iraniens contre Israël. Alors, l'aviation israélienne a donc mené ce raid la nuit dernière, une série de frappes dans plusieurs régions en Iran visant le programme nucléaire de Téhéran, qui, selon l'État hébreu, menace son existence. Hein. On sait que le jour où Téhéran arrivera à se doter de l'arme nucléaire, ce sera un vrai game changer dans la région. Il s'agit de l'attaque la plus importante à laquelle l'Iran a été confronté depuis sa guerre contre l'Irak dans les années 80. Donc je dis, ça n'est pas la, je disais à l'instant, ça n'est pas la première frappe d'Israël contre l'Iran, mais le monde m'explique que c'est quand même la frappe la plus importante depuis les années 80. Donc on est sur quelque chose d'historique. Alors, lors de cette vaste opération militaire, a priori pour frapper le nucléaire iranien, eh bien, des hauts responsables iraniens ont été tués, donc celui que nous évoquions, M. Salami, mais aussi un général, Gholam Ali Rachid, et même le chef d'état-major iranien, Mohammad Bagheri, ainsi que des scientifiques, deux scientifiques du programme nucléaire iranien. Rappelons que l'Iran ne reconnaît pas l'État d'Israël. Et rappelons que Téhéran soutient une série de mouvements palestiniens armés, dont le Hamas. Pour ceux qui ne connaissent pas l'état des relations entre. Merci, Fizorem, pour ton message sur le Louvre. L'Iran et Israël. Alors, quelqu'un me disait, mais c'est quoi les gardiens de la Révolution? La fonction de cet organisme. Ah non, c'est autre chose, c'est le Conseil suprême de sécurité nationale. Je vous dis une bêtise. Il faut que je vous définisse ce que sont les gardiens de la Révolution. Train de la hype de fou, là. Il y a eu 33 abonnements offerts dans le train de la hype. Vous êtes incroyable. Et je crois que dans. Donc, ça, c'est. Voilà. Il y a même une réunion d'urgence à 11h à l'Élysée, au Conseil de défense et de sécurité, à l'issue de ce qui vient de se passer. Donc c'est ouais, c'est important. Alors, toutes les réactions. Voilà. Donc, je vous le disais, il y a beaucoup d'articles déjà ce matin. On va essayer de trouver les plus intéressants avec un petit crible. Voilà, les dernières informations, France Info nous les donne ici. Quelqu'un me disait dans le chat, information confirmée, que les vols d'Air France entre Paris et Tel Aviv sont suspendus. Voilà, et là on a un autre article du Monde sur l'attaque. 200, waouh, 200 avions de chasse israéliens ont participé à l'opération. C'est gigantesque. Israël lance une attaque fulgurante et massive contre l'Iran. Ah, je ne pensais pas que c'était de cette importance. C'est gigantesque. On frappait donc vendredi des sites nucléaires et militaires disséminés sur tout le territoire iranien. L'offensive basée Rising Lion, le lion qui se lève, a été jugée très réussie par le Premier ministre Netanyahou. Après des années à menacer le régime iranien d'une attaque contre son programme nucléaire, présenté comme une menace existentielle pour l'État hébreu, le Premier ministre israélien Netanyahou est passé aux actes. Attaque aussi fulgurante que massive, 200 avions de chasse. Les États-Unis, semble-t-il, sont restés à l'écart de cette opération qu'ils ont qualifiée d'unilatérale. Les États-Unis auraient pu jouer un rôle, notamment par le partage d'informations satellites ou autres. Il semblerait que les États-Unis se désolidarisent de cette opération en la qualifiant d'unilatérale. Ce qui est assez intéressant, vous connaissez les liens entre Israël et les États-Unis. Alors, pourquoi cette frappe? Netanyahou affirme, comme il le fait déjà depuis plus de 20 ans, que la République islamique d'Iran a franchi des seuils jamais atteints dans son programme d'enrichissement d'uranium, qui est l'étape préalable à la fabrication de bombes atomiques. On sait depuis très longtemps que l'Iran essaye de se doter de la bombe atomique. S'il n'est pas arrêté, l'Iran pourrait produire une arme nucléaire dans un délai très court, peut-être dans un an, peut-être dans quelques mois. Un responsable militaire iranien dit même quelques jours. Alors, qu'en pensent les spécialistes de la région? Il s'agit d'une campagne all-in cette fois, puisqu'il y avait déjà eu des frappes, mais plus ciblées, hein, dans ma mémoire. Dont les conséquences seront profondes et significatives pour l'avenir de l'Iran et la stabilité de la région. Ce n'est que le début, prévient Dany Citrinovitz, qui est un chercheur. En faisant le choix d'une attaque frontale contre l'Iran, Israël court-circuite les négociations en cours entre ce pays et les États-Unis, que Donald Trump avait relancé en mars. Bah, Trump, il ne va pas être content. Malgré les coups très durs visiblement portés à l'Iran, c'est chaud en vrai. Israël s'attend à des représailles massives à l'échelle de son attaque. Selon les estimations américaines, la République islamique d'Iran a renforcé ses capacités balistiques. Elle aurait augmenté sa production de missiles à 50 unités par mois et disposerait actuellement de 2000 projectiles dotés de charges explosives d'une tonne. En conséquence, Israël se barricade. En fait, en Israël, on s'attend à des frappes imminentes, quoi. Waouh, ah oui, c'est vraiment un game changer en fait. Ok, bon, on ferait bien de commencer par ça. Est-ce qu'on on trouve d'autres articles? Bon, les bourses plongent, le cours du pétrole flambe. Bon, manifestement, tout le monde réagit, quoi. C'est chaud, hein. Frédéric Ancel, qui est un géopolitologue, qu'est-ce qu'il en pense? Un tournant, on a affaire à un tournant. Oui, c'était cette nuit, Tégolek. Alors, les menées anti-nucléaires israéliennes et américaines ont commencé dans les années 2010. Mais je pense que là, on a affaire à un tournant, dit Frédéric Ancel, que je connais bien. Que j'ai rencontré plusieurs fois. Il m'avait aidé à préparer mon oral d'intégration à Sciences Po, il y a très longtemps. Le spécialiste de cette région voit dans ces frappes un objectif double. Il s'agit de frapper les têtes à la fois de l'organisation militaire et les ingénieurs. Ce n'est pas nouveau, mais là, en une seule frappe, il semble qu'au moins plusieurs très hauts militaires aient été abattus. Vous savez qu'il y a une, alors, je pense que vous le savez, il y a une agence internationale qui depuis des années déjà, travaille à la surveillance de l'Iran pour que l'Iran, sous couvert de développer officiellement son nucléaire civil, parce que ça n'a jamais été affirmé, développe en fait l'arme nucléaire, quoi. Cette agence, elle s'appelle l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il y a eu plein d'épisodes, voilà, avec des experts internationaux envoyés sur place. Parfois, dans les moments de tension, ces experts étaient interdits du territoire iranien. Parfois, ils avaient le droit de venir, voilà, et selon les sanctions de la communauté internationale. Oui, FB75 me rappelle que l'Iran est signataire du TNP, le traité de non-prolifération nucléaire. Donc l'Iran, officiellement, ne cherchait pas la guerre, la bombe nucléaire, l'arme nucléaire, alors que bon, en fait, c'est bien sûr qu'il le cherchait, quoi. Enfin, c'est un secret de polichinelle que l'Iran cherchait à se doter de la bombe atomique, quoi. Pourquoi ils veulent empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire? Parce qu'en fait, comme vient de le rappeler quelqu'un dans le chat, ils ont signé un traité de non-prolifération nucléaire pour s'engager à ne pas se doter de cette arme nucléaire, quoi. Voilà. Et Israël, évidemment, dont l'existence n'est pas reconnue par l'Iran, ne veut absolument pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire, qui est potentiellement une arme qui peut rayer Israël de la carte, quoi. Après, je vois que certains ne comprennent pas dans le chat pourquoi c'est pas une super idée que l'Iran soit doté. Certains estiment que je vois des messages, mais pourquoi on empêche l'Iran d'avoir l'arme nucléaire? Alors, je ne veux pas aller sur le débat parce que je suis pas un spécialiste du sujet, mais peut-être parce que c'est un pays qui menace depuis toujours de rayer de la carte son voisin, peut-être déjà. Pas seulement comme arme de dissuasion, donc, mais comme arme à utiliser, quoi. Comme Israël, quoi. Bah, Israël n'a jamais déclaré qu'il voulait rayer l'Iran de la carte. Pour le coup. Ouais. Israël a bien des torts, qu'on documente tous les jours ici, notamment vis-à-vis des Palestiniens, mais Israël n'a jamais dit qu'il voulait rayer l'Iran de la carte, quoi. Ce qui n'excuse pas les crimes du gouvernement israélien par ailleurs sur d'autres sujets. Mais il ne faut pas tout confondre, quoi. Tu es tellement naïf, dit Jordan de 70, dont c'est la première intervention dans ce chat, qui lui sait, sait. Lui sait. Merci beaucoup. C'est pour ça que tu l'as écrit en lettres capitales. Et pour ceux qui pensent que j'oublie de parler des Palestiniens, c'est que vous ne connaissez pas cette chaîne, on en parle tous les jours, et encore ce matin, on parlera du génocide contre les Palestiniens. Mais faites comme si vous ne le saviez pas, ou faites comme si... Bon, peut-être que vous ne connaissez tout simplement pas cette chaîne, mais je ne peux pas vous expliquer tous les jours ce qu'on fait ici depuis 5 ans, ça va prendre trop de temps. Là, on n'est plus à la maternelle. Bon, attends, cherchons encore des articles sur le sujet en vrai. Bon, après, c'est difficile de trouver les sujets de fond parce que les choses sont passées il n'y a pas longtemps, donc là, ça manque un petit peu d'analyse. Mais demain matin, est-ce que je suis. Ah, demain, ah non, demain matin, je suis à Vivatech, je pourrais pas vous faire de revue de presse demain matin. Bon, mais ça mettrait qu'on y passe 3 heures ce matin en vrai, sur ce sujet. Là, on a beaucoup d'articles sur la nuit, quoi. Bon, c'est chaud, quoi. Wow. L'Iran promet une réponse qui n'aura pas de limite. Ah pardon, j'étais en train de chercher, je ne vous montrais pas ce que j'étais en train de faire. Bon, alors je vous disais que les États-Unis, les responsables de la diplomatie américaine ont expliqué qu'ils n'avaient aucune implication de l'offensive. Bon, sauf que sauf que Trump ensuite a déclaré sur Fox News qu'il avait été mis au courant des frappes à l'avance. Voilà. Donc du coup, l'Iran a déclaré que les États-Unis seraient responsables des conséquences des attaques meurtrières menées ce vendredi par Israël. pour l'Iran, tout est de la faute des États-Unis. Déclaration de l'agence officielle iranienne Fars News, l'agression du régime sioniste contre l'Iran n'aurait pas pu avoir lieu sans la coordination et l'autorisation des États-Unis. Les États-Unis dément toute implication, mais comme je vous le disais, Trump a dit qu'il était au courant. Bon. Réponse iranienne qui n'aura pas de limite, a promis l'état-major de l'armée iranienne. La France, donc communiqué de Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie, appelle à la retenue et soutient Israël. Le ministre des Affaires étrangères réaffirme au passage le droit d'Israël à se défendre contre toute attaque et se dit préoccupé concernant le programme nucléaire iranien. François Ruffin, lui, dénonce l'attaque israélienne. Le député, ex-LFI, puisqu'il n'y est plus, a dénoncé ce matin les bombardements israéliens. Netanyahou met à feu tout le Proche-Orient. Après l'écrasement de Gaza, les colonies en Cisjordanie, les frappes au Liban, voilà que l'armée israélienne bombarde l'Iran et jusque Téhéran. C'est une folie. La folie de la démesure, de la toute-puissance. La France doit convoquer un Conseil de sécurité des Nations Unies avec ses alliés, s'opposer à ce conflit avec fermeté. Vous voyez qu'en France, tout le monde n'est pas d'accord sur l'analyse de ce qui vient de se passer. C'est pour ça que je vous lis ces différentes déclarations. Du côté de Londres, on dit que c'est un moment dangereux et appelle toutes les parties à faire marche arrière. Ça va être compliqué. Des dizaines de civils blessés, ça c'est une information que j'attendais. Il est évident qu'il y a des victimes civiles. Bon voilà. L'Iran, qui officiellement ne cherche pas à se doter de l'arme nucléaire, le dit à demi-mot. L'Iran estime que ces bombardements justifient sa volonté d'enrichissement. On ne peut s'adresser à un régime aussi prédateur qu'avec le langage de la force, a affirmé le gouvernement iranien dans un communiqué. Le monde comprend désormais mieux l'insistance de l'Iran sur son droit à l'enrichissement, à la technologie nucléaire et à la puissance balistique. Bon, ça, ce n'est pas une manière de dire ce qui vient de se passer nous légitime à avoir la bombe atomique. Je comprends plus rien, quoi. C'est pas mal ce fil de Libé là. Trump espère toujours des négociations avec l'Iran après les frappes. Ah bah oui, sûrement, oui. Oui, en termes de négociations, ça va être assez chill, ouais. Encore une bonne analyse du président américain. Ah ouais, je pense que les mecs vont se mettre autour de la table pour discuter tranquillement. Il n'y a aucun problème. Bravo, Donald. Bon, ça, c'est les infos brutes, quoi. Je vous lis un petit peu quand même sur ce sujet. Voilà, mais un peu tendu. Mais en vrai, c'est un vrai truc de fou qui vient de se passer. Libé m'a fait une offre numérique de 3 mois à 1 euro. Ça peut valoir le coup pour les curieux. Dans Bagen, t'as raison, Libé fait régulièrement ce genre d'offres et de promotions. C'est vrai que Libé pour 1 euro pendant 3 mois, en vrai, c'est cool. Je vous lis. Analyse intéressante de Croutenard, qui contredit un peu mes propos, c'est ça qui m'intéresse d'ailleurs. Coutenard dit « Il n'est pas plus probable que l'Iran se serve de l'arme nucléaire pour détruire Israël que l'inverse. » Après, tu avoueras que le ton employé par l'Iran pour parler de sa recherche de programme nucléaire, elle est quand même extrêmement belliqueux. Mais ton message est intéressant. Attends, je l'ai perdu, merde. Attends. Attends, je te recherche, Croutonard, parce que ton message était bien. D'autant qu'il me donnait un peu tort, hein, c'est ça qui m'intéresse, moi. Ah, où est-ce que tu es? Attends, je remonte, je vais le retrouver. Ça, c'est, je vais le retrouver, j'y suis. Mince. Oh. Attends, je vais te retrouver par le pseudo. C'est Croutonard. Comment ça s'écrit? Comme ça, je crois. Ah, oh, je t'ai trouvé. Merci. Il n'est pas plus probable que l'Iran se serve de l'arme nucléaire pour détruire Israël que l'inverse. L'Iran perçoit plutôt l'arme nucléaire comme élément nécessaire à sa survie, comprendre le régime des Mollahs, bon, hein, qui n'est pas la plus grande démocratie, à l'instar de la Corée du Nord, qui n'a pas rayé la Corée du Sud ni les USA de la carte pour le moment. J'avoue que l'argument me semble pertinent. Alors, chacun de vos commentaires mérite que j'y réponde, mais c'est un peu compliqué. Réponds à tout, Samuel, tu peux le faire, c'est impossible. Parce que ce n'est qu'une des 10 actualités que je dois évoquer avec vous, et c'est humainement et matériellement impossible. C'est tout le charme de Twitch, mais c'est aussi la limite de Twitch, je ne peux pas répondre à tous vos commentaires, même si sur un sujet comme ça le mériterait. Il faut arrêter que la démocratie ça n'existe nulle part, me dit John Balek. C'est une forme de relativisme assez intéressant, qui veut dire que bon, comme aucune démocratie n'est parfaite, et pour cause, hein, toute démocratie est imparfaite, et a bien des failles, voilà, et commet bien des erreurs. Du coup, que ce soit un régime religieux ou une dictature ou une démocratie, bon, bah, c'est kiff-kiff bourrico, puisque comme aucune démocratie n'est parfaite, donc tous les régimes politiques se valent. Évidemment, cet argument n'a aucun intérêt. Parfois, je suis un petit peu cash comme ça. Voilà, parfois, je suis un petit peu brutal dans mes réponses. Mais ce relativisme est extrêmement dangereux, en fait. Aucun des pays du Proche et du Moyen-Orient ne fera quoi que ce soit concrètement contre Israël, estime Voodoo Coma, car ils espèrent tous qu'il empêchera bien Téhéran d'avoir la bombe atomique, et applaudiraient s'il réussissait à éliminer le régime des Mollahs. Bon, l'Iran, dont on sait qu'il essaie de déstabiliser régulièrement d'autres pays, effectivement, de la région, et pas seulement Israël. Charchaouet rappelle la citation de Churchill, mais qui reste d'actualité et encore pertinente aujourd'hui, la démocratie est le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Les Iraniens ont-ils autant le droit de vivre que les Israéliens? Alors, Heureusement, les frappes de cette nuit n'ont pas visé le peuple iranien, donc même s'il y a des dizaines de victimes civiles. Voilà. Contrairement à ce qu'ils font contre les Palestiniens d'ailleurs, et on va en parler tout à l'heure, quoi. Mon ami Tegolek écrit: Le problème, c'est surtout Israël qui attaque tout le monde. Le Liban, la Cisjordanie, la Jordanie, l'Iran, la Palestine, Gaza, et même les Français aujourd'hui. Okay. C'est pas ton relativisme à toi qui serait pas correctement ajusté, en tout cas en tout respect, Sam, parce que je crois que ton angle d'approche est un peu laxiste quand même. Tegolek, aurais-tu conclu nos échanges de ce matin que je validais les frappes de cette nuit d'Israël contre l'Iran? Parce que là, on a lu les faits, je vous ai lu les réactions des uns et des autres, mais à quel moment je t'ai dit que c'était que ça me semblait une bonne idée? Bon, laissons pour les Français, peu importe. Mais à quel moment je vous ai laissé penser que je trouvais que cette décision de Netanyahou de frapper massivement avec 200 avions les installations militaires et nucléaires iraniennes, à quel moment je t'ai dit que ça me semblait une bonne idée pour la paix dans la région? Merci Mito Totoro et bravo au modo de cette chaîne. Samuel, j'ai l'impression que tu ne reconnais pas que c'est dans l'identité même d'Israël d'attaquer ses pays voisins. Ezio Blue, en fait, il faut revenir un petit peu sur l'histoire rapidement de l'État d'Israël. On ne va pas revenir sur les conditions. Bon, on le fait tous les matins depuis quasiment 5 ans ici sur cette chaîne, les conditions de naissance de l'État d'Israël, qui remontent bien avant la Seconde Guerre mondiale. Il faut remonter sur. Loin dans l'histoire. Mais l'État d'Israël est en guerre depuis sa création. Avec ses voisins, ce qu'on appelait les guerres israélo-arabes déjà, avec des pays arabes qui, au début de la naissance de l'État d'Israël, ne voulaient pas qu'Israël s'installe dans la région. Il y a eu des guerres qu'on a appelées les guerres israélo-arabes, que Israël a gagnées, avec le soutien notamment des États-Unis. Donc c'est un pays en guerre avec ses voisins arabes depuis le début. Donc ce que tu rappelles juste une évidence historique. Voilà. Comme ces conflits ont été gagnés par Israël, bah, les conflits se sont arrêtés. Et après, il y a le sujet palestinien que nous traitons tous les jours aussi ici, dont on va parler dans un instant. Israël est en guerre depuis sa création, parce qu'Israël n'est pas accepté par les pays de la région. Pour des raisons d'ailleurs qu'on peut entendre aussi, hein. C'est pas une question d'identité, c'est les conditions de la création de cet État dans cette région-là qui sont documentées par le colon anglais, hein, et par la communauté internationale qui crée les conditions du problème, quoi. Mais c'est pas une question d'identité, c'est les conditions de la création de cet État. Alors après, on va revenir aux origines du sionisme à un moment, puisque c'est ça le problème, c'est que pour comprendre ces éléments d'actualité qu'on est en train d'évoquer, à un moment, mais là il faut remonter un petit peu en arrière et s'intéresser un peu à l'histoire, créer un État, un pays pour protéger les juifs du monde entier après des siècles de pogroms, et notamment la Shoah et l'extermination voulue par les nazis, à un moment protéger ce peuple juif qui n'avait pas de pays, qui n'avait pas de territoire pour vivre ensemble et se protéger, n'est pas l'idée la plus folle. C'est une idée cohérente. Alors le problème, c'est que cet État, le colon, c'est la déclaration Balfour, le colon anglais, et puis la communauté internationale a décidé que cet État devait se créer sur un territoire où il y avait déjà des gens, les Palestiniens, qui ne formaient pas pays et État en tant que tel, mais qui étaient un peuple. Et voilà, et tous les problèmes naissent là, à ce moment-là. Voilà. Donc, en fait, tous les ferments de ce qu'on vit depuis 1948 sont dans ça. Voilà. En gros, on donne un pays et des frontières à un peuple pour le protéger, mais sur un territoire où il y avait déjà des gens qui, certes, ne vivaient pas dans un État constitué, mais qui étaient un peuple. Voilà. Donc, en fait, on a deux légitimités qui s'affrontent. Vraiment, je vous fais l'histoire du conflit au Café du Commerce. Hein. C'est évidemment beaucoup plus complexe que ça. Mais j'essaie de vous l'expliquer ou le présenter tel que moi, très modestement, je l'ai compris. Et encore une fois, ma lecture des événements peut être totalement fausse. Mais vous avez deux légitimités qui s'affrontent. Un peuple, finalement, qui avait légitimité à se protéger des agressions qu'il avait connues à travers l'histoire, à travers des siècles d'histoire de pogroms, et notamment avec le climax de ça, qui est la solution finale souhaitée par Hitler. Donc, bon, en soi, ce peuple, c'est ce qu'on appelle le sionisme, c'est créer un État juif pour protéger ce peuple-là, pour les juifs qu'il souhaitait d'ailleurs, puisqu'il y a des juifs qui ne sont pas sionistes, il y a des juifs qui ne souhaitent pas vivre en Israël. Et donc, créer un État pour les protéger, donc une légitimité, une démarche légitime, et l'autre légitimité des peuples qui vivaient sur place, des Palestiniens, qui disaient, mais attendez, mais on vit là, nous. On vit là. Voilà. Et des pays arabes qui n'ont pas accepté ce qui a été imposé par le colon et la communauté internationale. De légitimité. Voilà. Quand on fait ce que moi j'ai fait jeune journaliste, quand je suis allé sur place pour essayer de comprendre un petit peu, et que je suis allé rencontrer des Israéliens et des Palestiniens. En fait, vous entendez deux peuples qui sont tous les deux persuadés d'avoir raison. Avec. C'est ça être sioniste, vouloir vivre en Israël? Oui, à la base, oui. Alors après, les militants de diverses causes ont donné au mot sioniste une autre couleur. Par exemple, en considérant que l'occupation illégale des territoires palestiniens, c'était du sionisme. En fait, c'est une forme extrême de sionisme, mais totalement illégale. Mais le sionisme, à l'origine, c'est soutenir l'existence d'un État pour les Juifs. C'est ça. Et sauf qu'après, d'autres ont voulu lui donner une autre signification à ce mot. Voilà. Et du coup, ça fausse tout le débat. Mais c'est ça le souci. C'est la définition du sionisme. C'est Théodore, comment il s'appelait, Herzl. Voilà. Qui en fait définit le sionisme, c'est ça quoi. Et donc, bref, pour avoir passé un petit peu de temps là-bas, vous rencontrez des gens qui sont persuadés d'avoir raison, et quand Théodore Herzl, c'est ça. Et qui les uns expliquant qu'ils ont droit à vivre en paix, dans un État qui les protège, et les autres disaient, mais oui, mais on est aussi chez nous, et nous aussi on réclame ce droit, et les Israéliens nous empêchent de vivre en paix, dans des conditions matérielles indécentes, et c'était déjà vrai il y a 20 et 30 ans, et c'est encore pire aujourd'hui. Voilà. Bon. On va en reparler aussi ce matin. Bon, là, vous voyez, on a passé une heure sur le sujet. Voilà, et on ne fait que l'effleurer. Et on le fait quasiment tous les matins. Et on y passe quasiment une heure à chaque fois. Mais même si ça nique un peu le principe de la revue de presse, ça me semble important de. Ouais. Ça me semble important de le faire. Bon, ça nique un peu le principe de la revue de presse. Parce que, du coup. Mais comment ne pas passer une heure ce matin sur ce qui s'est passé entre Israël et l'Iran cette nuit, quoi. Ouais. Hein. Et j'ai presque du coup envie d'enchaîner sur Alors du coup, peut-être que ce qui vient de se passer va tout niquer, mais bon. Sur ce petit espoir de reconnaissance de l'État palestinien par la France, reconnaissance internationale de l'État palestinien, qui est la condition sine qua non, je le répète, ça c'est ma conviction intime, du retour un jour de la paix dans la région. Il y a des petits espoirs. Je vous montre la une de la Libération. Voilà. Alors ce n'est qu'un petit espoir. Ne me faites pas dire que je pense que les choses vont se régler bientôt. Hein. Palestine, Macron en quête d'une reconnaissance. Oubliez les trucs, Macron, ah Macron c'est un con, je ne sais pas quoi, Macron c'est pas la France. Mettez-vous ça juste en tête. Voilà. La reconnaissance de l'État palestinien par la communauté internationale, c'est une... Il y a Tégolek qui me harcèle de messages pour que je lui réponde. Vous êtes 3486. Tégolek, je t'aime beaucoup, t'es un habitué de la chaîne, mais c'est presque indécent en fait. Vous êtes 3486, il y a des centaines de messages actuellement sur l'actualité, et tu me harcèles pour que je lise tes messages que j'ai lus. Mais franchement, ça n'est pas respectueux du reste du chat, je ne peux pas le faire individuellement. C'est pas un one-to-one, je suis désolé. Il faut que tu arrêtes. Alors, ce n'est pas une histoire de Macron, c'est une histoire qu'un jour, si la communauté internationale reconnaît cet État palestinien, eh bien c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Voilà. Le début d'une possibilité de la paix, enfin, tendue sûrement dans la région. Donc oubliez Macron, c'est pas une histoire de Macron, c'est que si la France reconnaît qu'il reste une grande puissance et une grande puissance diplomatique, enfin l'État palestinien, eh bien c'est peut-être le début de quelque chose. À 4 jours du sommet de l'ONU, d'ailleurs c'est une initiative qui n'est pas que française, je crois que c'est une initiative franco-saoudienne, le président hésite. Rallié à l'idée d'un État palestinien, il s'active pour convaincre, mais fait face à de nombreux obstacles. Voilà. Bon, Libération, c'est un journal qui, comme l'humanité, suit la question palestinienne depuis très longtemps. Quoi. Alors, il y a un édito d'Alexandra Schwarzbrod, qui est une excellente journaliste de Libé, notamment sur les questions internationales, mais pas seulement, qui écrit « Y croire ». Tout aujourd'hui nous pousse à ne plus croire à la possibilité de voir un jour deux États, israéliens et palestiniens, coexister en paix. Pourtant, c'est ça l'objectif. Sur le terrain, Gaza est un champ de ruines, oui. Sous le contrôle quasi total des dirigeants israéliens, oui. Qui rêvent d'en chasser tous les Palestiniens, oui. Et la Cisjordanie est devenue un Far West dominé par des colons tout puissants dont le but est de récupérer l'ensemble du territoire. Tout ça est vrai, c'est du factuel. Le Premier ministre israélien n'a qu'un objectif, rester au pouvoir, oui. Ce qui suppose de continuer la guerre, oui. Et les extrémistes du Hamas savent que la paix signerait la fin de leur existence. Tout cela est vrai. Pour couronner le tout, Benjamin Netanyahou pense pouvoir compter sur le soutien total des États-Unis qui font usage de leur droit de veto pour bloquer toute résolution contraignante envers Israël. La situation paraît inextricable. Donc Alexandra Schwarzbrod dit « Il y a zéro espoir. Mais j'entends un mais qui arrive. » Merci Skyonis pour le soutien. Merci Fizorem. J'entends un mais qui arrive. Un mais d'espoir. Et pourtant, le voilà le mais. Tout nous pousse à continuer à croire à l'impérieuse nécessité de reconnaître un État palestinien. Car il n'y a pas d'alternative. Emmanuel Macron a fait beaucoup d'erreurs au niveau diplomatique, mais ça, il l'a bien compris. Il a vu les ravages des frappes israéliennes sur la population de Gaza. Il sent monter la colère de l'opinion devant l'impuissance des dirigeants à faire cesser ce bain de sang. Il a monté un plan en coordination avec MBS, le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, qui n'est pas non plus un exemple... Disons qu'il a une conception un peu particulière de la liberté de la presse. Quoi. Il aime bien couper les journalistes en petits bouts, pour ceux qui ont la ref. Mais bon. Qui a une infime chance de réussir. Il suppose un cessez-le-feu. Alors, parce que c'est vrai que Macron a mis des conditions à cette reconnaissance de l'État palestinien. Il suppose un cessez-le-feu, la libération des otages, le désarmement du Hamas, que le Hamas accepte d'être désarmé, la reconnaissance d'Israël par les États arabes. Il faudrait que l'Iran, par exemple, reconnaisse Israël. Vous avez vu, on est loin. Hein. La revitalisation de l'autorité palestinienne avec des élections à horizon d'un an sous contrôle international. Hein, l'autorité palestinienne qui dirige plus ou moins la Cisjordanie, qui est totalement gangrénée, notamment par la corruption. Voilà. Et l'aide financière de Riyad, donc l'Arabie Saoudite, pour reconstruire Gaza. L'idée est de faire comprendre à Trump que les mid-termes approchent et qu'il a besoin d'une victoire diplomatique. MBS et Macron la lui apportent sur un plateau s'il contraint Netanyahou à accepter un cessez-le-feu. Sur le papier, c'est nickel, mais il faut que Trump l'accepte et que les extrémistes palestiniens et palestiniens ne fassent pas capoter le plan. C'est loin d'être gagné, mais cette infime chance existe, il faut la tenter et il faudra recommencer si cela échoue inlassablement. Voilà. Bon. Alors le problème, c'est que ce papier est écrit avant ce qui vient de se passer. C'est un petit peu compliqué. C'est pas un pays arabe, l'Iran, non, c'est un pays perse. Mais en termes géographiques, ici et diplomatiques, quand on parle de la reconnaissance des États arabes, d'Israël par les pays arabes, l'Iran est inclus. Voilà. Faut faire des petits efforts. Si on, à chaque fois qu'on cherche les petits détails dans une histoire et qu'on se focus sur les petits détails, on oublie en fait ce qu'on essaie de comprendre. C'est intéressant. Quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. C'est un peu une illustration de ce qui vient de se passer là. Le diable est dans les détails. Non, le diable est dans l'esprit de ceux qui cherchent les détails pour ne pas comprendre l'essentiel. Alors le problème, c'est que l'article, il est écrit avant, il est avant ce qui s'est passé cette nuit, quoi. Alors, lisons un petit peu de façon accélérée cet article, je ne vais pas tout vous lire, sur le fait que la France va ou non reconnaître l'État palestinien dans les prochains jours. Le président est déterminé à avancer, dit-on à l'Élysée. Le G7 qui s'ouvre dimanche au Canada permettra d'ultimes discussions. Macron s'y rendra après avoir accueilli aujourd'hui à Paris vendredi des acteurs de la société civile israélienne et palestinienne réunis par le Forum de la paix. Et il compte sur l'appel lancé à l'occasion pour la solution à deux États afin d'affermir son discours à New York. Personne, même lui à ce stade, ne sait quels seront ses mots. Voilà. Merci Jean Perse. Honorera-t-il son engagement à reconnaître un État palestinien? Se contentera-t-il d'une déclaration de principe en posant les conditions esquissées ces derniers temps? Bon, c'est-à-dire qu'on n'aura pas beaucoup avancé. Hein. Donc, je rappelle les conditions: libération de tous les otages, démilitarisation du Hamas, c'est chaud, nouvelle gouvernance de l'autorité palestinienne, reconnaissance d'Israël par ses voisins. Comme ça va éviter la colère de ceux qui nous expliquent que l'Iran n'est pas un pays arabe. Les voisins, ça va, les pays voisins? Elles sont intenables, ces conditions, dit un diplomate. Macron pourra au moins dire j'ai essayé. Ce serait dommage que ce ne soit qu'une posture. Ce serait dommage que dans quelques jours, le président Macron nous dise vous avez vu, j'ai essayé, mais c'est impossible. Parce que c'est pour ça que ce dossier n'avance pas depuis des décennies, en fait. C'est parce que la communauté internationale n'assume pas ses responsabilités. Je vous ai, en quelques mots, rappelé la responsabilité de la communauté internationale dans ce qui se passe aujourd'hui. Les conditions de la création de l'État d'Israël sous la houlette du colon britannique et de la communauté internationale, les conditions de la création de l'État d'Israël sont les raisons pour lesquelles on vit ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Donc la communauté internationale a bien, depuis le début, une responsabilité là-dedans. Et si les deux parties au conflit palestinien-israélien n'ont pas réussi à trouver le chemin de la paix depuis toutes ces années, c'est notamment parce que la communauté internationale ne les a pas aidés, accompagnés. Et parfois en imposant des choses depuis le début. Voilà. Donc si Macron nous dit dans quelques jours, vous avez vu, j'ai essayé, j'ai pas réussi, eh bien ce n'est que ce qui se passe de tous les jours depuis 50 ans dans la région. Voilà. Et donc il y a bien une responsabilité de la communauté internationale. S'il le fait, par contre, c'est le début de quelque chose. Macron découvre l'inextricable question palestinienne. Il était temps. Il était temps. Longtemps, il l'a ignoré, retrace celui qui l'y a sensibilisé, Ofer Bronstein, militant de la paix, juif de gauche, parce que oui, il y a des Israéliens, et puis il y a des juifs partisans de la paix avec les pays de la région et avec les Palestiniens. Grandi en Israël, puis en France, ex-conseiller d'Itsak Rabin, le Premier ministre, qui l'envoya rencontrer Yasser Arafat avant les accords d'Oslo de 93. Bon, c'est quand même dingue qu'on apprenne que le président d'un État comme la France n'ait pas compris plus tôt la complexité du problème, quoi. C'est fou, ça. Il est vrai que plus personne rappelle Libération. Même les pays arabes. ça il faut le rappeler, ne se souciait ces dernières années des Palestiniens. Jared Kushner, le gendre de Trump, venait dérouler à l'Élysée les accords d'Abraham, sous l'œil séduit du président, croyant aussi que la reconnaissance d'Israël par les pays de la région, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, avant celle promise de l'Arabie saoudite, finirait par tout régler. Voilà. Les Palestiniens ont totalement été oubliés, y compris par les pays de la région, quoi. Pays de la région qui se disaient on va plutôt reconnaître l'État d'Israël et puis commercer avec lui, faire des échanges économiques, technologiques. Tout a changé après les massacres du 7 octobre. Ces 1200 victimes tuées par le Hamas. Macron a alors lancé cette folle idée de coalition anti-Hamas soufflée au soir de son départ pour Tel Aviv. Il fut décrédibilisé dans le monde arabe, tensé comme un enfant par le roi de Jordanie. Bon là, c'est l'évolution de la position de Macron sur le sujet qu'on va pas tout développer. Ça va les travaux à côté, on vous gêne pas, il y a les travaux à côté. C'est fou ça. Tout le monde se ligue pour m'empêcher de faire cette revue de presse. Bon là, vous avez un article assez intéressant sur comment l'opinion de Macron a évolué sur le sujet, quoi. Donc j'accélère bien sûr. Mais par contre, je vous invite à lire. Alors pour le coup, pour les gens qui s'intéressent à la question du prochain, à la question palestinienne, là, c'est vraiment des papiers qu'il faut lire, quoi. Vous avez un dossier dans Libération qui est assez complet ce matin. Vous avez un dossier dans l'Humanité qui fait plusieurs pages aussi. La compréhension de l'actualité, ça nécessite. Alors c'est pas très populaire de le dire, mais ça nécessite des efforts. Ça demande du travail et beaucoup. Et d'ailleurs, tout le monde n'a pas le temps de consacrer ce temps à la lecture, à l'analyse de l'actualité. Je le comprends, on a tous des vies, des engagements professionnels, familiaux, des passions. Sur un sujet comme ça, par exemple, le Proche-Orient, c'est littéralement des années de réflexion pour commencer à entrevoir le début d'une compréhension du sujet, quoi. Pas un truc que vous avez entendu sur une chaîne d'info ou un copain militant qui vous a résumé un conflit millénaire en une phrase. Ça demande du temps et c'est compliqué. Macron a compris qu'il ne pouvait pas agir seul. Il a pris la mesure du désastre de la logique mortifère de Netanyahou, avec qui les relations sont devenues exécrables. Il a vu sur les réseaux sociaux le flot d'images, des vidéos de Gaza, la jeunesse mobilisée dans le monde entier, la popularité de Villepin qui se rêve désormais à l'Élysée, partout applaudie, très écoutée au Quai d'Orsay. Macron a entendu les leaders du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie, confondus de le voir s'immobiliser pour l'Ukraine et si impuissant à Gaza. Ainsi a-t-il cheminé. Le président finit par tenir sa ligne. Je défends le droit légitime des Palestiniens à un État et à la paix, comme celui des Israéliens, à vivre en paix et en sécurité. Ce qui est la clé, ce double constat, de la paix dans la région. 'Va te faire foutre », c'était la réaction d'un des fils de Netanyahou à cette prise de position. Le président français est conspué dans les médias, ciblé, il sait que les dirigeants israéliens peuvent être redoutables. Ordre a été donné au service français de prendre la distance avec le Mossad, le service secret israélien. Alors il y a un dossier dans l'Humanité aussi sur le sujet ce matin. L'Humanité qui, pour donner un contexte, est un journal qui est historiquement pro-palestinien, quoi. Quand personne ne parlait des Palestiniens, l'Humanité le faisait, quoi. Une semaine cruciale, donc voilà, je ne suis pas le seul à dire qu'il y a quelque chose. Alors ce qui s'est passé cette nuit là, entre Israël et l'Iran là, va peut-être changer la donne, hein. Mais avant ces frappes israéliennes de cette nuit, l'Humanité parlait peut-être, oui, d'une semaine cruciale. Merci beaucoup, Skyoni, je ne sais plus si je t'ai remercié, fils de Rem, je ne sais plus. L'initiative franco-saoudienne à l'ONU du 17 au 21 juin, c'est dans quelques jours, pourrait aboutir à une reconnaissance par Paris de l'État palestinien. un acte fort symbolique sur fond de mobilisation croissante contre la politique génocidaire de Tel Aviv. Et d'ailleurs, on va aller voir dans la Croix tout à l'heure deux historiens qui parlent de cette politique génocidaire, de ce processus génocidaire. Basculement, éditorial de Sébastien Crépel dans l'Humanité, un éditorial, c'est un article où le journaliste donne son avis. Mieux que les diatribes publiques, les agissements en coulisses de la première puissance mondiale désignent le camp dans lequel se range l'administration Trump à l'approche de la conférence consacrée à la Palestine à l'ONU. Hein, cette déclaration française, c'est dans le cadre d'une conférence de l'ONU sur la Palestine. Par tous les moyens, les services de la Maison-Blanche s'emploient à saboter la perspective d'un accord à l'initiative de la France et de l'Arabie Saoudite incluant un grand nombre de pays, dont le point d'orgue pourrait être la reconnaissance par Emmanuel Macron entre le 18 et le 20 juin à New York de l'État de Palestine. Déclaration de Washington, les États-Unis s'opposent à toute mesure qui reconnaîtrait unilatéralement un État palestinien hypothétique. Voilà. Washington, États-Unis, premier soutien évidemment d'Israël. Washington qui a même appelé les autres capitales à boycotter cette conférence. Le plan français pour impulser un mouvement collectif susceptible d'exercer une pression cruciale sous le gouvernement de Netanyahou, de plus en plus isolé, et c'est heureux, dans son entreprise de dévastation sans merci de la bande de Gaza et de sa population. C'est bien ce qui dérange le Premier ministre israélien et son allié américain. En incluant la reconnaissance de la Palestine déjà actée par 148 pays dans le monde, il y a 148 pays dans le monde qui ont déjà reconnu l'État de Palestine. Mais toujours pas par Paris, toujours pas par Londres, toujours pas par Berlin, toujours pas par Washington. Et bien, cette reconnaissance française redonnerait du crédit à une solution de paix à deux États, dont la colonisation sans fin de la Cisjordanie et le projet d'expulsion des Palestiniens de Gaza visent à tuer définitivement l'espoir. Le projet du gouvernement israélien Netanyahou, c'est que en forçant la population palestinienne à fuir Gaza, voilà, et en prenant le contrôle de Gaza, et en continuant à coloniser sans fin la Cisjordanie, bon, en fait, la question de l'État palestinien ne se pose plus, puisqu'il n'y aura plus de Palestiniens dans la région. Voilà. Une page de l'histoire va s'écrire dans les jours prochains. Mais les manœuvres américaines ne font qu'en confirmer le virage diplomatique mondial en cours. Ça n'était pas gagné d'avance après 20 mois de propagande acharnée pour justifier l'injustifiable. Ce basculement est une victoire des mobilisations citoyennes, des plus petites actions locales, au vaste retentissement médiatique de la flottille de la liberté, dont on en a parlé il y a quelques jours. Que leurs participants soient tous salués. Voilà. Bon, je pense que c'est pas la peine de lire le dossier, puisque cet édito explique bien en fait ce qui devrait se passer dans les prochains jours. Pour le coup... C'est vraiment intéressant. Donc, on va surveiller. Donc, on parle du 17. Le 17, ça va se passer entre le 17 et le 20 juin. Donc, c'est entre mardi et vendredi prochain. J'espère qu'on sera en vue de presse. Merci pour ce raid de Drakeos. Ami Drakeos qui se penche aussi sur l'actualité tous les matins. Merci beaucoup. On vient de consacrer une très grosse page, comme tu l'as fait sûrement, aux frappes israéliennes contre l'Iran cette nuit et sur l'éventuelle reconnaissance dans les prochains jours. De l'État palestinien par la France. Voilà. Et on est en train de regarder si du 17 au 20, d'ailleurs, juin, on pourra faire un peu de revue de presse, d'ailleurs. Impeccable. Oh, bah, très bonne nouvelle. Ok. Le lundi 16 au matin, revue de presse. Le mardi 17 au matin, il y aura une revue de presse. Le mercredi 18, il y aura une revue de presse. Le jeudi, j'ai le spectacle des enfants à l'école. Je verrai. Le 20... Il y aura une revue de presse. Ok, bon, c'est bon, on sera sur le pont. On sera sur le pont. Ah. T'inquiète, Mister Dante, j'ai compris que c'était un truc inhérent au stream de Drakeos. Exactement, énorme sujet, mais aussi ce qui se passe avec les réseaux sociaux et TikTok, encore la jeune garde dissoute. Ouais. Les réseaux sociaux, j'attends des articles. Moi, je trouve que les articles dans la presse matin sont pas encore foufous sur. Ah, tu parles de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Je pensais que tu parlais des créateurs de contenu entendus au Parlement là. J'attends un petit peu des articles de fond là-dessus. Pas foufou, quoi. Non, c'est pas une kermesse, c'est le spectacle des enfants. C'est différent. On continue? Alors, un sujet qu'on aborde régulièrement ici, même s'il est douloureux, s'il est lourd et s'il est compliqué, et qu'il met le feu au chat à chaque fois, c'est est-ce que il est juste de parler de génocide vis-à-vis du peuple palestinien et notamment vis-à-vis des Gazaouis? Voilà. Donc on a eu plein d'articles là-dessus ces derniers jours. Voilà. Et là, La Croix, qui est un excellent journal, donne la parole à deux historiens qui disent très clairement, oui, c'est un processus génocidaire. Avec des petits bémols, notamment dans ceux qui comparent ce génocide-là, parce que des génocides, il y en a eu plusieurs dans l'histoire, avec la solution finale exercée par les nazis contre les juifs. En disant, c'est pas parce qu'on utilise le même mot que c'est exactement la même chose. Voilà. Mais oui, c'est un processus génocidaire. Prenons le journal de La Croix, allons page 4. Et confrontons le regard de ces deux historiens qui sont Jacques Semelin et Henri Laurence. Henri Laurence, historien au Collège de France, et Jacques Semelin, directeur de recherche émérite au CNRS. J'adore ce message. Bizarre ces nuances. En fait, c'est ce qu'on essaie de faire ici. Parce qu'en fait, l'absence de nuances, pardon, je vais être très cash, hein, l'absence de nuances dans l'analyse de quoi que ce soit, et notamment de l'actualité, c'est la bêtise. Voilà. Et la bêtise amène souvent à la violence. Parce que quand on résume tout, quand on simplifie tout, quand on refuse de mettre de la nuance dans l'analyse de quoi que ce soit, eh bien on finit par opposer les gens violemment, quoi. Voilà. Alors voilà, si tu es un ennemi de la nuance, si la recherche de la nuance dans l'analyse de quoi que ce soit, notamment de l'actualité, ne t'intéresse pas, tu n'as, je te le dis de façon très très cash, hein, mais de façon la plus calme aussi, tu n'as rien à faire ici, tu ne comprendras jamais ce qu'on essaye de faire. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut dire que le gouvernement israélien et l'État israélien est engagé dans un processus génocidaire vis-à-vis des Gazaouis, tout en estimant que ce génocide-là n'est pas le même que celui des nazis contre les juifs, n'est pas celui des Hutus contre les Tutsis, et ainsi de suite. Voilà. Mais si tu refuses la nuance, je pense que tu ne peux pas comprendre ce qu'on essaie de faire ici. Les gens qui vous disent l'actualité, c'est simple. L'actualité qui vous disent que ce problème, qui est parfois un problème millénaire, en fait, il est simple, et qui vont vous expliquer en deux mots qui est le camp du bien et le camp du mal, voilà, c'est méfiez-vous, fuyez ces gens, fuyez ces gens. Ces gens vous emmènent dans le mur. Alors, lisons ces historiens maintenant. L'État israélien a engagé un processus génocidaire. Des voix de plus en plus nombreuses s'élèvent pour qualifier la guerre menée par Israël à Gaza de génocide, un terme historiquement et juridiquement lourd. Pour éclairer ce débat sensible, La Croix a donné la parole à ces deux historiens. Lisons-les. Désolé, je mets des. Ah, j'ai envie de mettre des petits théos là, des insolents dans le chat, là, mais calme-toi, Samuel. C'est pas parce que voilà, sur 3 700 personnes, il y a forcément des petits provocateurs. S'ils sont une minorité, calme-toi, Samuel. Ou va sur Valo pour t'apaiser. Camille, toi aussi, tu les vois. Hein. Ouais, je sais. C'est pas grave, c'est pas grave. Oublions ces comportements minoritaires pour garder l'esprit de chill de cette revue de presse. Voilà. Même quand certains sont très agressifs dans leurs commentaires, quoi. En tant qu'historien, comment situez-vous vis-à-vis de ce concept de génocide? Réponse d'Henri Laurence. Au 19e, on parlait d'extermination lors de la conquête de l'Algérie ou des Indiens d'Amérique. Les violences de masse étaient regroupées sous un nom qui était celui-ci, on parlait d'atrocité. Après 1945, on a ressenti le besoin d'élaborer un corpus juridique destiné à protéger les populations civiles, dont la Convention de 1948, adoptée par l'ONU. La question est de savoir si ces concepts juridiques sont des instruments de compréhension utiles par les historiens. Jacques Semelin répond l'autre historien, « Je crois nécessaire de distinguer ce qui relève du droit ou de l'histoire. En droit, je préfère... » Pardon. Excusez-moi. « Je préfère l'expression « crime de génocide » parente de celle de « crime contre l'humanité ». En histoire comme analyse des dynamiques, la notion de processus génocidaire me paraît particulièrement pertinente. Question de la Croix. Quand est apparue pour la première fois l'accusation adressée à Israël de commettre un génocide à l'encontre des Palestiniens? Quand est-ce que c'est apparu? Et en fait, c'est beaucoup plus ancien qu'on ne le croit. Le premier historien explique que la première fois, c'était à la conférence de Durban en 2001. En 2001! On est dans le contexte de la seconde intifada, pendant laquelle Yasser Arafat, le dirigeant palestinien de l'époque, le dirigeant de l'OLP, veut créer une situation à la Kosovo pour forcer une intervention internationale. À Durban, je crois que c'est en Afrique du Sud, je ne sais plus, les ONG, les organisations pro-palestiniennes, les pays du Sud ont cela en tête. En accusant Israël de commettre un génocide contre les Palestiniens, ils espèrent provoquer un choc qui entraînera une intervention internationale. Stratégie balayée par le 11 septembre. La parole à Jacques Semelin. Quand on travaille sur le génocide, il faut toujours garder à l'esprit les usages politiques de ce terme afin de ne pas se laisser prendre par son instrumentalisation et par la concurrence des mémoires. Pensons au Rwanda où il est établi qu'il y a eu le génocide des Tutsis par les Hutus. Les Hutus répondent « Mais nous aussi, on a été victimes d'un génocide. » Cette concurrence victimaire mémorielle brouille la compréhension et porte en elle un projet politique qui vise à la légitimation de soi et la délégitimisation de l'autre. La parole de nouveau à Henri Laurence. Alors ça, c'est ce que j'essaie de rappeler à longueur de stream, mais le problème, c'est qu'il faut le rappeler tous les jours. La situation de Gaza est le produit d'une longue histoire qui passe par la déclaration Balfour en 1917, qui était un ministre britannique, la création de l'État d'Israël, en 48, la conquête de Jérusalem en 67, dans le cadre des guerres israélo-arabes, si je ne dis pas de bêtises, tant qu'on n'aura pas réintégré les Palestiniens dans l'histoire d'Israël, on ne comprendra pas ce qui se passe. L'un a chassé l'autre, qui ne l'a pas accepté. Cela ne justifie pas le Hamas, et encore moins le 7 octobre, mais c'est le cadre historique. Je pèse mes mots. Il y a une virtualité génocidaire à Gaza depuis 1948. Je trouve que cette phrase, elle est essentielle. Quand je vous disais tout à l'heure que Chomato, le Hamas, tu dis que c'est un groupe de résistance? Non. Chomato, le Hamas, est un groupe de résistance qui emploie le terrorisme. Ce qui disqualifie son combat. Il manque un bout dans ta phrase. Il y a une virtualité génocidaire à Gaza depuis 1948. Il y a une virtualité génocidaire à Gaza depuis 1948. C'est ce que je vous dis à longueur de stream, les conditions de la création de l'État d'Israël, hein, avec la responsabilité du colon anglais et la communauté internationale, portent en fait en germe tout ce qui s'est passé après. Au sens où, il explique, l'État d'Israël n'a pu se faire et ne continue à se faire que dans l'expulsion et dans l'élimination des Palestiniens. C'est à partir de cela qu'il faut réfléchir pour trouver des solutions politiques et morales satisfaisantes. Alors, le problème, c'est quoi là? C'est un historien qui est dans la nuance, alors certains, ça va forcément en énerver un petit peu, quoi. Diriez-vous que la Nakba, donc l'exode massif lié à la création d'Israël, est la première étape même vers ce processus génocidaire. Je dis qu'abstraitement, la condition de l'existence de l'État Israël ne peut se faire que par l'appropriation des biens des Palestiniens et par leur expulsion. Les Israéliens sont pris dans un processus historique qui les amène à s'affronter de façon constante avec la population définie en 1922 comme indigène par la Société des Nations. Il le dit avec des mots beaucoup plus brillants et beaucoup plus intelligents que moi, mais il dit ce que je dis toujours sur le sujet en fait. Les conditions de la création d'Israël portent en germe toute la violence qui s'est produite ensuite. Quoi. L'autre historien ajoute, parmi les processus de destruction que j'ai identifiés, il y a détruire pour éradiquer. C'est dans ce cadre que se situe la Nakba, dans laquelle se manifeste la volonté de faire partir un autre perçu comme étranger ou dangereux dans une logique de conquête. C'est la figure de l'autre en trop. C'est vrai pour les Israéliens qui regardent les Palestiniens, et c'est vrai aussi de l'autre côté, avec l'idée que les Juifs ne devraient pas être là. Il ne s'agit pas pour les Israéliens d'éliminer tout le groupe, mais de lui faire suffisamment peur, de le détruire en partie, de sorte qu'il s'en aille, contraint et forcé. Ce processus se poursuit aujourd'hui. Alors la Croix relance, merci El Fabinho pour ton soutien. Qu'entendez-vous par processus génocidaire dont Israël serait responsable aujourd'hui à Gaza? J'adore parce que dans le chat, je vois des gens qui accusent ces historiens d'être de dangereux pro-israéliens et d'autres des antisémites. J'adore ça. C'est qu'ils doivent avoir raison alors. S'ils sont accusés par les deux camps, c'est que globalement, ils doivent être pas loin de la vérité. La Croix leur demande, qu'entendez-vous par processus génocidaire dont Israël serait responsable aujourd'hui à Gaza? Première réponse, il s'agit de la destruction par Israël de l'identité palestinienne à Gaza pour chasser les Gazaouis de ce territoire. Le deuxième, un exemple en supprimant l'agence pour les réfugiés palestiniens, l'agence de l'ONU, Israël et les États-Unis détruisent les services éducatifs, sanitaires et sociaux de la bande de Gaza. Voilà, on a parlé de ce concept de futuricide de Tenry dans ce stream il y a quelques jours. Faire cela peut être considéré comme un processus génocidaire dans la mesure où ils détruisent la structure intellectuelle, morale, scolaire, il n'y a plus d'école à Gaza, médicale, il y a quasiment tous les hôpitaux ont été détruits, d'une société. La manière de catégoriser l'adversaire en terroriste relève aussi de ce processus. Le bétail devient terroriste, l'école devient terroriste, etc. En 82, le discours israélien sur l'antiterrorisme a mené Sabra et Shatila. On pourrait même parler d'antiterrorisme génocidaire parce que le mot terroriste justifie tout dans le discours israélien. Pour certains responsables politiques israéliens, le Hamas n'est pas, il n'y a pas que le Hamas qui est terroriste. Tout le peuple palestinien est considéré comme terroriste. Ça, c'est le point de vue des ministres d'extrême droite les plus radicaux du gouvernement israélien. On se rapproche de la définition du génocide de Raphaël Lemkin. On est dans un processus de destruction d'une identité humaine collective. On détruit en partie physiquement le groupe, hommes, femmes, enfants, les institutions, universités, édifices religieux, centres culturels. Bref, on fait tout pour anéantir la possibilité pour ce groupe d'enraciner sur un territoire et d'y prospérer. C'est la notion de futuricide. L'État d'Israël fait tout pour que, en fait, les Palestiniens n'aient pas de futur. Ils ne sont pas dans une... Attention, nuance. Attention, les adversaires de la nuance, c'est pour vous, c'est votre moment. J'adore. Quand tu préchotes une partie du chat. Attention, adversaires de la nuance, c'est pour vous. Attention, cela ne veut pas dire qu'on nazifie les Israéliens. Ils ne sont pas dans une logique d'extermination nazie des Palestiniens. Ils ne visent pas leur éradication totale. Gaza n'est pas un nouvel Auschwitz. En revanche, l'État israélien est bel et bien en train d'y détruire la possibilité d'une identité palestinienne pérenne. L'autre historien dit, je suis intégralement d'accord, on est dans un corps à corps mortel, comme les Français l'étaient avec la population algérienne. Les colonisations de peuplement entraînent des situations de refoulement de population. Le rêve de chacun est que l'autre disparaisse, et comme c'est impossible, les violences atteignent un niveau incommensurable. Voilà. Juger qu'Israël est engagé dans un processus génocidaire, n'est-ce pas faire l'impasse sur tous ceux qui s'y opposent dans la société israélienne, comme le mouvement La Paix Maintenant, puisque de tout temps, il y a eu des Israéliens qui étaient pro-palestiniens et pour la paix, quoi. Aujourd'hui, il y a bien sûr des gens en Israël qui s'opposent à cette politique menée envers les Palestiniens. Par exemple, B'Tselem, qui documente et informe le public et les décideurs israéliens sur la violation des droits de l'homme dans les territoires occupés pour combattre la situation de déni dominant le public israélien, mais cela ne représente qu'une toute petite minorité. L'autre historien ajoute, en effet, quelle est la force de ce mouvement aujourd'hui? On ne parle pas ici d'Israël en général, ce qui inclurait la diversité de sa société civile, dont nous savons qu'elle est en partie hostile à Benjamin Netanyahou. Il s'agit bien plutôt de pointer une politique de l'État israélien et du gouvernement, une politique éradicatrice des Palestiniens de Gaza. Pour ceux qui refusent de rentrer dans ce discours sur la nuance et qui font qui posent un signe, comme je le vois dans le chat, strictement égal entre le nazisme et le gouvernement Netanyahou, en fait, vous vous empêchez de comprendre la réalité du sujet, vous vous empêchez de convaincre les sceptiques, puisqu'en fait, dans l'aspect excessif de votre propos et de votre analyse, en fait, vous empêchez de convaincre ceux qui peuvent être convaincus. Vous, en fait, vous luttez contre votre propre cause. En versant dans un manichéisme absolu. Pour ceux qui mettent un signe égal entre le gouvernement Netanyahou, qui est un des pires gouvernements qu'Israël ait pu avoir, le pire, et le régime nazi, en fait, vous montrez que vous ne connaissez pas l'histoire de l'Allemagne nazie, que vous ne connaissez pas l'histoire du nazisme, que vous ne connaissez pas l'histoire de la Shoah, que vous ne connaissez pas son aspect théorique, écrit, annoncé, appliqué, et vous ne connaissez pas la réalité de ce qui s'est passé. Mais pas grave, hein. L'article n'est pas terminé. Ah, que changerait la reconnaissance du crime de génocide par la Cour internationale de justice? Qui peut le savoir? En ce domaine, je n'ai jamais vu de décision de justice aux effets considérables. Reste que le crime de génocide est assorti d'une responsabilité collective et une co-responsabilité internationale. C'est l'absurdité des déclarations de certains pays européens, dont la France, qui disent attendre que la justice parle de génocide. Ah oui! Le journal dit, mais est-ce que c'est important que la justice dise que c'est un génocide? Alors le problème, c'est que le temps de la justice, c'est un temps long. La justice internationale, elle dit, oui, mais le temps de la justice, c'est un temps long, donc il faut attendre que les preuves s'accumulent, etc. Et les pays qui disent, bah, tant que la justice internationale ne dit pas que c'est un génocide, nous, on ne se prononce pas, quoi. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Les Palestiniens meurent. Donc les historiens disent, en fait, il ne faut pas attendre cette décision de justice internationale. Quand Macron dit qu'il faut laisser faire le travail des historiens, on a envie de lui dire « Regardez bien le texte que la Convention a signé, vous êtes co-responsable si vous laissez faire. » Y a-t-il intention génocidaire? L'intention génocidaire, dit Jacques Semelin, est lumineuse à travers les déclarations de responsables israéliens après le 7 octobre. Telle que cette toute première sur les animaux humains. Il y a un ministre israélien qui a parlé des Palestiniens comme des animaux. Amnesty International en a listé les plus significatives. Mais les violences de masse se développent aussi le plus souvent dans un contexte international qui les favorise. Nul doute, par exemple, que la déclaration du président Trump du 4 février de créer une riviera, vous savez, à Gaza, une côte d'Azur, là, un programme immobilier de luxe, à participer à la radicalisation des mots et des pratiques de destruction. Question. Est-ce que les Israéliens le 7 octobre ont-ils été victimes d'un acte génocidaire du Hamas? Allons-y, hein. Passer après. Merci Showtime. Le 7 octobre est une action terroriste portée par une intention génocidaire. La prise d'otage par le Hamas a alimenté la confrontation entre ces deux identités exclusives. L'autre historien dit « Le 7 octobre est une sorte de tremplin de choses invraisemblables mises en cause à cause de ces attaques et de la volonté de la vengeance contre un peuple. On est à l'intersection des histoires. » Peut-on parler d'une dynamique mimétique de l'acte génocidaire? Il y a comme un miroir les atrocités. Le Hamas se défend juste. Non, quand le Hamas vient tuer, vient massacrer des hommes, des femmes, des enfants, voilà, qui, ironie de l'histoire, vivent dans des kibbutz à la frontière avec le Gaza. Les kibboutz qui historiquement sont peuplés par justement les Israéliens et les Juifs les plus pro-palestiniens, les plus pro-paix. Quand les militants du Hamas viennent tuer ces civils désarmés, hommes, femmes et enfants, qui en plus sont sans doute parmi leurs plus grands soutiens, le Hamas ne se défend pas. Le Hamas commet un acte monstrueux de terrorisme. Point. Fin du débat. Peut-on parler d'une dynamique mimétique de l'acte génocidaire? Il y a comme un miroir des atrocités. Ils ont fait ça, alors on va faire ça à une plus grande échelle. Clausewitz a montré que la guerre revient à une montée aux extrêmes, mais que le politique est là pour maîtriser le cheval fougueux qu'est la guerre. Ici, dans le cas du gouvernement israélien, c'est le politique qui fouette le cheval fougueux et lui dit d'aller plus vite, plus fort et de faire plus de victimes. Là, le politique, il a perdu la tête, c'est Netanyahou et son gouvernement d'extrême droite. La rationalité de la politique israélienne est allée de plus en plus vers le grand Israël, soutenu par les suprémacistes. C'est une vengeance, mais pour atteindre ses objectifs politiques. Le deuxième historien, ce conflit s'étend, pardon, dans un espace extrêmement restreint, avec une dimension mondiale dès l'origine. Le mouvement sioniste s'est construit comme agissant sur les grandes puissances pour atteindre ses objectifs politiques, comme le définit Theodor Herzl, dont on a parlé tout à l'heure. Vous y ajoutez la radicalisation des positions religieuses, la dimension historique avec la Shoah, la dimension coloniale, et vous avez un conflit où tout est en tout et où tout est facteur de violence. Que vous évoque le fait qu'un État créé après la Shoah soit accusé de génocide? Qu'évoque pour ces historiens le fait qu'aujourd'hui, c'est un gouvernement, voire un peuple, qui est accusé de génocide alors que lui-même l'a vécu? Tout le jeu mémoriel israélien est une assimilation des Palestiniens aux nazis. Aujourd'hui, il y a des gens, y compris dans le chat, qui disent que les Israéliens sont des nazis, mais les Israéliens, enfin le gouvernement israélien, dit aussi que les Palestiniens sont des nazis. Tout le jeu mémoriel israélien est une assimilation des Palestiniens aux nazis, une nazification des Arabes. Mais les Israéliens doivent comprendre que les Palestiniens font partie du relief, du climat, et qu'on ne peut pas les éliminer, comme ils ne peuvent pas éliminer les Israéliens. Dire qu'Israël est engagé dans un processus génocidaire contre les Palestiniens de Gaza me met dans une profonde tristesse. On assiste à un désastre moral et à la possibilité que l'État Israël avance vers une sorte de faillite morale. J'espère qu'il n'y perdra pas son âme. Voilà. Bon, la lecture de ce double regard d'historien ne clôt pas le débat. Ce n'est qu'un avis, qu'une analyse, celui de ces deux historiens, auxquels je rajoute mes petites analyses de comptoir. Vous ne pouvez être radicalement pas d'accord avec moi, et vous avez peut-être raison. Ce n'est qu'un article, qu'un stream, qu'un regard. C'est mon analyse. Pour le coup, c'est un sujet sur lequel je me penche littéralement depuis 30 ans. Mais vous pouvez avoir raison contre moi, bien sûr. N'oubliez jamais ça. Voilà. Bon, voilà pour cette grosse page consacrée à ce qui se passe dans la région entre les bombardements israéliens de cette nuit contre l'Iran et les derniers développements de ce qui se passe autour de la Palestine. Axiane, sincèrement, je ne comprends rien à ce conflit. C'est normal. Je suis pas au courant de ce qui se passe à la DGSI, Toto. J'ai presque envie de ne pas aller regarder parce que j'ai peur qu'on soit. Qu'on soit encore. Mais ça me titille. Qu'est-ce qui s'est passé à des. C'est quoi ces DG quoi? C'est la DGSI? J'ai peur que ça nous fasse encore perdre du temps. Il est quelle heure? 12h28, pop, 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 pop. Je vais aller voir, je vais aller voir. Plusieurs suicides dans quelques mois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on a des articles intéressants? Alors, je tape DGSI, j'ai bienvenue sur le site de la DGSI. Alors, on va pas aller voir ça. Je pense que c'est pas là qu'on va trouver les infos. Merci le chou-fleur, tu régales pour les 10 abonnements offerts à la communauté. Non pas 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6, ni 7, ni 8, ni 9, mais 10 abonnements. Merci le chou-fleur pour ton soutien. Alors, allons voir les articles. Ok, effectivement, il y a des articles. Un agent retrouvé mort dans les locaux de la DGSI à Levallois. un nouvel agent du renseignement retrouvé mort son lieu de travail. Possible troisième suicide en 5 mois. Qu'est-ce que dit le West France, par exemple? Enquête ouverte après la découverte du corps sans vie d'un employé de la DGSI, donc c'est le service secret français, quoi, à Levallois, le 2 juin, retrouvé dans son véhicule de service. L'agent serait décédé des suites d'un coup de feu dans la tête, la piste du suicide est privilégiée, le policier ayant laissé derrière lui une lettre d'adieu. D'après Le Parisien, bon, on va aller voir l'article du coup, il pourrait s'agir du troisième suicide en seulement quelques mois au sein des services secrets. En janvier dernier, un agent s'était donné la mort dans les mêmes circonstances avec son arme de service dans les sous-sols de la DGSI. 2 jours plus tôt, un autre employé avait mis fin à ses jours à son domicile. Bon, bah, on n'en sait pas plus. Bon. Bah, évidemment, ça, on a envie de se poser des questions. Après, vous savez que le taux de suicide chez les forces de l'ordre, notamment chez les policiers, il est très élevé, notamment parce que les conditions de travail des policiers sont extrêmement difficiles et qu'ils vivent au quotidien des choses difficiles, mais aussi parce qu'en fait, ils ont littéralement à portée de main un instrument, leur arme de service, qui leur permet de passer de l'envie de se donner la mort à la réalisation de ce geste de façon très rapide. Nous ne sommes pas tous en possession d'une arme à la maison. C'est l'une des raisons pour lesquelles le taux de suicide chez les policiers, il est plus élevé. Au-delà des conditions de travail et de la difficulté du métier. Hein. Mais donc là, c'est un élément d'explication, mais évidemment pas suffisant. J'espère qu'on en saura plus dans les prochains jours. Mais si, bah le couille, tu peux écrire la preuve. Merci le chou-fleur. Bien sûr, vu le cas, n'hésite pas à me proposer les chaînes, je vais les noter. Non, mais bon, voilà. Bon, on va surveiller cette actu. Alors, je me dépêche parce que j'ai mille informations à partager avec vous, quoi. Bah le quiz, tu peux seulement tes messages avec des mots non acceptés dans la charte de modération. Ah, il y a peut-être un mot, parfois, il y a une modération automatique sur certains mots, quoi. Par exemple, si tu écris Samuel Etienne n'est pas beau, ou Samuel Etienne n'est pas un BG, tu es bloqué. Tu peux pas l'écrire, c'est interdit. D'abord parce que c'est faux, et ensuite parce que non. Voilà. Vous pouvez faire le test, ça marche. Ah, ça marche plus. Ça me tient n'est pas beau, non, ça marche. Ça me tient n'est pas beau, ah non, ça marche. Ah, non, je pensais que c'était interdit. Vous l'avez pas interdit ça, les modos? Attends, les gars. Franchement. Vous êtes pas cool, hein. Ouais. Bon, moi, ça, je pensais. Même ça, c'est autorisé. Calvitie, c'est interdit, je crois. Ça devrait, Clément. Même calvitie, c'est pas interdit. Mais si, quoi, le grand pour le prime. Merci à Kidji pour le 7e mois. Alors, ensuite, de quoi parlons ce matin? De sujets légers? Sûrement pas. Oh, la catastrophe aérienne. Air India. Oh, la catastrophe. Page 17 dans Le Parisien. Quelle dinguerie, ça. Un Boeing. Les dégâts provoqués ce jeudi par la chute du Boeing d'Air India qui a fait 265 morts. Il y a un survivant. Sont colossaux. L'origine du drame reste encore mystérieuse. Les secours tentent de retrouver des corps. Ça m'ira bien. Et sinon, la Palestine, l'Iran? Oh non, non. Oh non, non, non. Non, 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 non. Oh non, non, je vois vraiment pas l'intérêt. Ça m'ira bien, 29, 0308? Non, non. Non, je vois l'Iran là, ce qui s'est non, je vois pas tout. Non, je pense, je vais pas en parler ce matin. La Palestine, non, c'est un sujet que je me refuse à traiter sur cette chaîne, j'en parlerai jamais. Non. Sinon, tu peux regarder par curiosité le replay de ce début de ce stream qui a commencé à 2h24, où nous avons littéralement consacré 2 heures à ces sujets. De rien. Alors, lisons cet article sur ce crash. 13h39 ce jeudi, heure d'Abad en Inde, le vol AI-171 de la compagnie Air India a décollé depuis quelques secondes seulement. Pourtant, à travers le hublot, les 242 passagers, personnel de bord inclus, ne voient pas l'appareil prendre de la hauteur. pire, le Boeing perd le peu d'altitude qu'il vient de grappiller. Il finira sa course dans une faculté de médecine.
Wow.
Avant de prendre feu sous les yeux terrifiés des Riviens. Le bilan de la tragédie est extrêmement lourd. Parmi les personnes à bord, 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Portugais, 1 Canadien aux côtés de l'équipage. Parmi eux, au moins une personne a survécu. Des étudiants qui venaient de se retrouver dans la salle à manger de la faculté de médecine ont vu l'appareil foncer sur eux. Putain, il y a des morts aussi parmi les étudiants. Ils sont des dizaines à avoir péri. T'es à la fac de médecine, t'es en train de manger tranquillement à la cantoche, comment on appelle ça, au restaurant universitaire, quoi. Et tu te prends un Boeing sur la gueule, quoi. Voilà. Passé l'heure du bilan, qui risque d'évoluer dans les prochaines heures, les regards se tournent vers l'équipage de l'avion et la constructeur de l'appareil. À qui la faute ? Seules les boîtes noires devront définitivement trancher. Même si certains dans le chat, dont certains ont lancé le premier message sur la chaîne, viennent déjà de nous expliquer, de nous affirmer que c'était un acte terroriste. Bien sûr. Merci Monsieur Royal Tech pour les bits. Merci quoi le grand. Puisqu'ils savent. Parce qu'ils savent déjà. L'avion était pilotable, mais en descente permanente, comme s'il n'avait plus de moteur, observe un ancien pilote de ligne et président d'Aviation Sans Frontières, Gérard Felzer. Cette éventuelle panne pourrait venir d'un problème de carburant, complète Michel Polaco, qui est un ancien pilote aussi et spécialiste de l'aéronautique français. Quoi. Voilà. Les deux experts évoquent une possible présence d'eau dans les réservoirs, dangereuse car les températures négatives vont faire geler cette eau, explique Gilles Gauthier, qui est directeur de Total Energy Aviation, sur son site internet. La cristallisation peut entraîner une perte de puissance, voire un crash. Une autre théorie émerge, comme à chaque crash, celle de l'aspiration d'oiseaux par les réacteurs. Sur ce genre d'appareil, les moteurs sont très gros. Il faudrait beaucoup de volatiles pour les stopper simultanément. Nuance, Michel Polaco. Je serais étonné que des oiseaux soient capables d'abattre un gros courrier comme celui-ci. Quoi. Ce serait même une première. Le terrible accident conserve pour le moment son lot de mystères, même si certains dans le chat ont déjà l'explication, bien sûr, en spécialiste aéronautique. Qu'ils sont, je suis fier que dans cette communauté il y ait des gens qui s'y connaissent autant. Merci CocoPB76, comment vas-tu pour le 23e mois. Le terrible accident conserve pour le moment son lot de mystères. Quelques certitudes se décident néanmoins. La thèse du suicide venant de membres de l'équipage paraît peu probable puisque des messages d'alerte ont été envoyés. Il a lancé un appel d'urgence au contrôleur aérien qui n'a ensuite plus de contact avec l'appareil. Par ailleurs, le pilote était très expérimenté. Avec plus de 8000 heures de vol au compteur, manière d'écarter selon les experts la piste d'une erreur de pilotage pour le moment. Je sais pas, l'Hudson c'était peut-être pas considéré comme un avion aussi gros, je sais pas au courant du tout. L'intervention d'un élément extérieur semble écartée. En décembre, le système anti-aérien russe avait été accusé d'avoir abattu un vol d'Azerbaïdjan Airlines au-dessus du Kazakhstan. Rien ne laisse penser pour l'heure qu'un tel incident similaire, avec un missile donc, ait eu lieu. Les dégâts provoqués par la chute d'appareils sont colossaux. Voilà, au moment du crash, juste avant, l'appareil volait à 300 km/h. La déflagration provoquée par l'impact n'a laissé aucune chance aux passagers. Seul un Britannique de 40 ans a survécu. Alors ça, il y a un gars qui a survécu à ça. À un choc, à un crash d'avion à 300 km/h. Selon la chaîne locale CNN News 18, il devait initialement prendre place au siège 11F. Sur sa carte d'embarquement, diffusée par les médias locaux, le quadragénaire est enregistré sur la même rangée, mais sur le siège A. Le gars a changé de place. Hasard, erreur ou troc volontaire, ce changement de place de dernière minute lui a peut-être changé la vie. 11F, il serait mort, sans doute. Voilà, puis il a changé. Comment ça, il a sauté ? Mais non, mais n'écoutez pas le chat. Il y a quelqu'un qui a dit « il a sauté ». Mais il n'a pas sauté. Il a sauté à 300 km/h ? Peut-être, je sais pas moi. Mais quoi, du coup, il s'est mis à courir à 300 km/h pour attraper l'énergie cinétique de l'avion ? Non, il a vraiment sauté ? Attends, on va aller voir. Attends, je veux voir cette histoire. Avant que ça tombe, à 300 km/h ? Il a sauté, il est tombé sur un trampoline qui l'a fait atterrir dans un arbre ? Attends, moi je veux voir ça, moi. Attends, attends. Boeing, un survivant sauté. J'adore cette histoire. Alors, c'est ce que certains médias rapportent. La dépêche. D'après la BBC qui cite le commissaire de police local, voici la source. Un homme présent dans l'avion a survécu. Voilà. Il s'appelle Ramesh Vishwakarma, d'origine britannique. Et il aurait sauté de l'avion avant l'accident. J'adore ça. Alors, question du Figaro, est-ce que le siège 11A, du coup, est le plus sûr? Alors, les experts disent non, c'est un concours de circonstances, quoi. Le survivant raconte simplement que 30 secondes après le décollage, il y a eu un gros bruit. Puis l'avion s'est écrasé. Tout s'est passé très vite. Quand je me suis relevé, il y avait des corps tout autour de moi. J'avais peur, je me suis levé, j'ai couru. Il y avait des morceaux dans l'avion tout autour de moi. Quelqu'un m'a rattrapé, m'a mis dans une ambulance, m'a emmené à l'hôpital. Il dit pas qu'il a sauté, hein, pour l'instant. Hein. Lui, il le dit pas, en tout cas. Je crois qu'il... Bon, c'est anecdotique, hein, de toute façon. Ce qui est fou, c'est qu'il ait survécu, ça c'est formidable. Moi, je serais lui, je ferais un petit euro million, là, vite fait. Hein. Voilà. Par contre, vous me ferez penser à prendre la place 11A quand même pour mes prochains vols, quoi. Voilà, on y reviendra dans les prochains jours. Accident, acte de terrorisme, missile, on verra, quoi. C'est vrai qu'il y a un euro million aujourd'hui. Donc il a rien eu, il est un peu blessé, il est un peu blessé. Il est un peu blessé. Bon, et puis alors, nouveau coup dur pour Boeing, hein, qui a eu pas mal de soucis ces dernières années. Alors quelqu'un me disait, oui, l'avion, le Hudson, avion Hudson, c'était déjà des oiseaux. Et c'était un gros porteur. Et donc ce serait pas une première fois si c'était les oiseaux. Alors c'est un Airbus A320. Donc c'est déjà un gros, hein, c'est un gros avion quand même. Et effectivement, il perd ses deux moteurs après l'ingestion de plusieurs volatiles. Quelle idée aussi d'ingérer des volatiles. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est déjà un gros avion, vous avez raison. C'est un moyen courrier. C'est plus petit. Ah, alors Oli qui s'y connaît un petit peu me dit un A320 c'est bien plus petit, les moteurs sont plus petits. Ah d'accord, ok. Donc c'est bien ce que disait. D'accord, ok. C'est un moyen porteur, d'accord. Donc ça confirme l'information qu'on disait dans du spécialiste aéronautique là, le Boeing là, donc c'est un Boeing 787-8, c'est plus gros. Et ce serait donc une première parce que les moteurs sont plus gros que l'Airbus A320. Ok. Alors c'est une piste possible, mais c'est pas sûr. Quoi. Bon, on y reviendra. Pour l'instant, beaucoup de questions, pas beaucoup de réponses, quoi. Ouais. Il y a une vidéo qui montre bien le déroulé du crash, me dit Nuno, depuis la phase de décollage. Il ne semble pas y avoir de collision avec des oiseaux. Enfin, en tout cas, pas de moteur en feu ou fumée, quoi. Voilà. Alors, la présence de l'eau dans les réservoirs qui aurait gelé et qui aurait empêché le carburant de parvenir correctement au moteur est une autre piste. Luns, tu l'as en replay. Les replays sont gratuits sur la chaîne. Donc le Proche-Orient, l'Iran, Israël, on y a passé 2 heures. Tu l'as en replay sur ce stream. Tu l'as sur Twitch là. Tu peux déjà y accéder si tu veux. Alors, autre actu que je voulais porter à votre connaissance ce matin. Est-ce que c'est Ah ouais, ce sujet de la croix qui est étonnant. Sur l'adoption internationale. Alors bravo Lacroix en fait. Hein, c'est pas une actu qui fait la une de un événement qui fait la une de l'actualité, mais pour le coup Lacroix met sa, sa lumière dessus et c'est vachement intéressant. Le Gorafi avait sorti un article titré « Boeing met fin à sa collaboration avec Lego pour la conception de ses avions », me dit Ninox. Ils sont forts, ils sont très forts. De quoi s'agit-il ? Adoption internationale, la fin d'une époque. De nombreux pays interdisent cette pratique, encore très répandue au début du siècle. Il y a un édito de Fabienne Lemayeux qui s'appelle « Faire famille ». J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a un changement de paradigme, de philosophie sur les questions de l'adoption à l'international. Et la Croix l'explique très bien. Désolé, il fait chaud. Merci Guy Broche. Depuis 3 ans, les adoptions internationales par initiative individuelle sont interdites. Il faut désormais passer par les instances officielles dédiées pour voir cette démarche aboutir, et c'est tant mieux. La France, à l'instar d'autres pays riches, revient de loin. Comme l'a démontré l'an dernier la mission interministérielle lancée en 2022, on découvrait alors l'ampleur des pratiques illicites qui consistaient pour beaucoup d'intermédiaires à user en toute impunité des enfants comme d'une marchandise. Sans occulter l'infinie douleur de parents biologiques, ni celle des enfants qui leur furent enlevés, la Croix a choisi aujourd'hui d'écouter les questionnements des parents qui eurent recours à l'adoption internationale quand celle-ci n'était pas encore régulée. Sur la détresse économique des premiers, sur l'envie compréhensible de fonder une famille des seconds, ont prospéré nombre de dérives dont les enfants furent les premières victimes. Toute filiation est une adoption. Chaque naissance est un accueil, car faire famille est un principe d'humanité. Mais l'enfant n'est pas l'affaire de ses seuls parents. Il est l'affaire de tous. Et personne ne pourra jamais... Non mais arrêtez les raccourcis, là. Il y a un article qui vous explique que certains intermédiaires ont profité du désir de faire famille d'enfants pour faire de l'argent. Et ça devient, dans la bouche d'Actuel, dans le chat, « Ils payaient pour adopter, on est où, là ?» Donc Actuel est en train de nous dire que tous les gens qui ont adopté des enfants à l'international ont payé. Putain, mais mettez un tout petit peu de nuance dans vos propos, bordel. Vous allez nous foutre l'humanité à feu et à sang, quoi. Putain, et après, on s'étonne qu'il y a des guerres, quoi. Vous pouvez pas faire un petit effort à un moment ? Bordel ! C'est dingue, ça. C'est fou, ça. Oui, j'ai entendu Samuel Etienne hier sur Twitch. Il a dit que tous les gens qui avaient adopté des enfants, ils avaient payé, c'est un scandale. Vous voulez pas faire un effort ? Bordel ! Incroyable ça. Je t'ai tout cassé là. Alors moi j'aime bien cette phrase. L'enfant n'est pas l'affaire des seuls parents. Il est l'affaire de tous. Et pour ça, et personne ne pourra jamais soustraire quiconque à la question de ses origines. Parce qu'en matière de parentalité, les devoirs dépassent largement les droits. Adopter un enfant du bout du monde ne relève pas du seul cadre privé. C'est aussi une démarche à penser collectivement. Le renforcement des contrôles et la baisse de la natalité dans les pays démunis, mais aussi le développement des techniques de procréation médicalement assistée dans les pays riches, sonnent structurellement la fin, à plus ou moins long terme, de l'adoption internationale. Déjà, un nouveau défi s'impose à nous, et quelqu'un en parlait dans le chat tout à l'heure. La pratique inacceptable de la GPA contre rétribution, qui prospère dans les pays les plus pauvres, n'attendons pas un jour de nous en indigner. Voilà. Ça, c'est encore un autre problème qui arrive. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce changement de paradigme, et on se rend compte qu'il y a eu des excès, des dérives dans l'adoption d'enfants à l'international, le problème, c'est qu'il y a des familles aujourd'hui en France, bah tiens, à cause de, comme les gens qui ont écrit dans le chat tout à l'heure, là, qui ont adopté dans le passé, pétris de bonnes intentions, sans forcément payer, et aujourd'hui qui sont montrés du doigt, quoi, hein, par des gens qui veulent pas mettre un peu de nuance. GPA, c'est la GPA, c'est la gestation. Merde, pour autrui. C'est quand une femme porte l'enfant pour d'autres. Actuel, tu cherches le ban. Hein. Les modérateurs t'ont à l'œil. Tu cherches le ban. Je te rappelle que tu es déjà considéré comme un utilisateur suspect par les modérateurs. Tu ne le sais pas, mais moi je le vois. C'est pas la première fois que tu fous le boxon. Ainsi en ont décidé les modérateurs. Je serai toi, je ferai profil bras. Bras, bas. Bas comme ban, quoi. Ok ? Et oui, les fichiers S. Il ou elle. Documents falsifiés, Bébé arraché à la naissance, les révélations autour des pratiques illicites dans l'adoption internationale ces dernières années sèment le doute dans les familles adoptives, voilà, même lorsqu'elles ne sont pas concernées. Voilà. Beaucoup de familles adoptives vivent aujourd'hui avec le doute alors qu'elles pensaient s'être entourées de toutes les garanties au moment de l'adoption de leur enfant, explique la présidente d'une fédération enfance et familles d'adoption, elle-même mère de deux enfants adoptés. Lorsqu'on lit la presse ou qu'on regarde la télévision ou qu'on regarde certains commentaires sur Twitch, comme par exemple d'un viewer, d'une joueuse nommée Actuelle, c'est écrit ici dans la croix, voilà, on a l'impression d'être tous des voleurs d'enfants. Depuis quelques années, l'adoption internationale a mauvaise presse. En 2023, une étude historique menée par les chercheurs Yves Denecher et Fabio Macedo a révélé l'existence de nombreuses pratiques illicites, voilà, largement connues des acteurs de l'adoption avec des enfants arrachés à la naissance, confiés sur la base de mensonges ou en échange d'argent. Ces dérives qui ont provoqué un séisme dans les familles ont été confirmées par un rapport en France rendu public en 2024. Pardon, je me fais un petit historique. Et on continue. Ce sujet qui est gravissime. Lorsque j'ai découvert ce rapport, je suis tombé de l'armoire. Avoue François, 65 ans, qui est une mère adoptive de deux enfants nés au Vietnam. Je n'aurais jamais imaginé qu'il pouvait y avoir des irrégularités, comme les enfants étaient dans des orphelinats, soutenus par des religieuses qui nous disaient qu'ils avaient été trouvés ou abandonnés à la naissance, on les croyait. Lorsqu'en 1999, la France suspend provisoirement les procédures d'adoption avec le Vietnam, Françoise, qui a adopté en 90 et en 96 en individuel, sans passer par un organisme, comme c'était le cas dans la majorité des adoptions à l'époque, s'est dit qu'elle n'était pas concernée. Voilà. Pour nous, il n'y avait rien d'illégal. Le ministère des Affaires étrangères était très pointilleux sur les dossiers. Cette mère adoptive de deux enfants, avec qui elle n'a pas encore abordé le sujet, se sent blessée par le soupçon qui pèse aujourd'hui sur l'adoption internationale. Tout ce qu'on entend laisse penser que toutes les adoptions sont illégales. C'est choquant. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui manquent de nuances. Oui, cette généralisation est injuste. On ne peut pas jeter le discrédit sur toutes les adoptions. Renchérit Béatrice, 56 ans, mère de trois enfants adoptés en Colombie, qui ont aujourd'hui 15, 18 et 21 ans. Ce n'est pas parce qu'on souffre qu'il faut éclabosser tout le monde, ajoute-t-elle. Longtemps perçue comme une bonne action, l'adoption internationale est devenue suspecte. Pour comprendre ce qui s'est passé, il faut contextualiser les différentes périodes de l'adoption d'enfants étrangers qui ont commencé après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque des Boat People, dont les Boat People c'était quoi ? C'était le Cambodge ? Je dis pas de bêtises ? Ou le Vietnam ? Le Cambodge, non ? Dans les années 70, il y avait un droit, voire un devoir, c'était le Vietnam ? C'est le Vietnam ? Merci, j'avais un doute. Oh, c'est le Vietnam, pardon. Il y avait un droit, un devoir d'ingérence humanitaire. Ah, c'est les deux ? Ah, on me dit que c'est les deux. Bon, bah. Vérification. Le mot boat people, alors c'est un mot que les plus jeunes ne connaissent pas, hein, désigne trois vagues d'émigration successives de la péninsule indochinoise. Entre 75 et 90. Donc il y a eu une première vague partie du Vietnam, il y a eu une autre vague partie du Cambodge, ah bah c'est les deux, ouais. Et il y a aussi le Laos. Voilà, bon bah voilà. Donc les gens qui disaient c'était les deux, vous aviez raison. Donc, à l'époque des Boat People, par exemple, il y avait un droit, voire un devoir d'ingérence humanitaire. Adopter un enfant était souvent une démarche proche de l'action salvatrice qu'on retrouve dans le christianisme. On nous disait qu'on était des gens bien, témoigne Françoise. On nous trouvait courageux, on nous prenait presque pour des héros, ce qui n'était évidemment pas le cas. Et aujourd'hui, on nous accuse d'avoir pillé les pays pauvres au profit des riches. On oublie qu'à l'époque, il n'y avait aucun système de protection de l'enfance dans les pays d'origine. Intéressant. Ah merde, j'ai perdu l'article.
Ah!
Arrête de bouger. Une responsable d'association confirme: on sait que certains parents ont accepté de payer des avocats véreux, sans se préoccuper de la légalité des procédures pour répondre à leur désir d'enfant. Mais c'est à la marge. L'immense majorité des adoptants ont agi dans le respect des règles et dans l'intérêt de l'enfant, avec les informations dont ils disposaient à l'époque. Intéressant ce dossier. Voilà. Et puis la Croix nous explique que désormais, c'est tant mieux, hein. Les démarches sont de plus en plus encadrées. Il y a des scandales, hein. Il y a des sc On en a parlé récemment ici. Il y a des scandales. Avec quel territoire d'outre-mer il y a eu des scandales comme ça? Il y avait quel pays, on en a parlé récemment, le scandale d'enfants qu'on a arrachés à leur famille, en fait. On en a parlé, vous vous rappelez? Alors il y a eu la Réunion. Ouais. Voilà, la Réunion, des enfants qui étaient arrachés à leurs parents, des enfants qui étaient parfois confiés à des tiers, mais pour qu'ils soient confortablement, plus confortables matériellement, mais sans que les liens soient rompus avec des familles qui souhaitaient les récupérer. Et puis après, on les. La Corée du Sud, voilà. Avec la Corée du Sud, il y a eu ça aussi. Tout à fait, on a lu un papier là-dessus, ouais, aussi. Voilà. Et donc des démarches de plus en plus encadrées au niveau international. Après les Pays-Bas, la Suède envisage d'interdire carrément l'adoption internationale suite à l'adoption d'un rapport qui révèle de graves irrégularités. Quid de la France? La France a suspendu les procédures d'adoption dans certains pays, a réduit le nombre d'organismes habilités, mais l'autorise toujours, bien que cela n'attire plus beaucoup de couples. Et là, je pense qu'on va vers la GPA, donc. Voilà. Non seulement il y a moins d'enfants à adopter, nous explique la Croix, mais leur profil a changé. Désormais, il s'agit d'enfants plus âgés et à besoins spécifiques, c'est-à-dire porteurs de handicap, ce qui peut dissuader les couples. Par ailleurs, avec les progrès de la médecine, ces couples se sont tournés vers la procréation médicalement assistée, la PMA, qui a élargi aux couples de femmes et aux femmes seules en 2021. La PMA permet d'avoir un bébé qui est relié génétiquement à au moins l'un des futurs parents, sans avoir à passer par l'épreuve de l'agrément et le parcours du combattant de plusieurs années, c'est très compliqué, hein, d'adopter, de l'adoption. Bien que toujours interdite en France, la GPA, quelqu'un m'a demandé ce que c'était. Hein. Alors GPA, ce n'est pas une compétition automobile. Hein. La gestation pour autrui, pratiquée dans les pays où elle est légalisée, qui est interdite en France, est devenue une alternative, notamment pour les couples d'hommes. Voilà. C'est quoi la différence entre PMA et GPA? Ben, ça n'a rien à voir. La PMA, c'est la procréation médicalement assistée. Donc on permet à un couple, y compris un couple de femmes désormais, d'avoir un enfant, avec un don de gamètes ou d'ovocytes, selon les besoins. Voilà. Et la gestation pour autrui, c'est de faire porter ton enfant par une autre femme. Et ça, la Croix rappelle que c'était interdit en France, quoi. Même si la nuance, attention les ennemis de la nuance, même si la justice européenne française a reconnu progressivement la filiation des enfants nés d'une GPA. Donc la GPA est interdite en France, mais est reconnue la filiation des enfants nés de GPA, notamment dans les pays étrangers, pour que l'enfant ne soit pas, ne souffre pas en fait de ce statut, en disant non, tu n'es pas l'enfant d'eux puisque c'est interdit, quoi. Voilà, intéressant ce dossier. Pas de double peine, exactement. Fricassé de fèves au Bellotas, il doit être très très bon. C'est bien, malgré la richesse de l'actualité, on arrive à avancer ce matin. Que deux choses ce matin, que deux choses. Après ce dossier de la Croix sur la fin de l'adoption internationale, finalement, connais-tu l'opération tapis volant du régime israélien? Ça te permet de creuser ce matin? Non, j'en dis babette, je vais pas revenir sur Israël ce matin, on y a passé 2 heures une autre fois. Désolé. Normalement, hein. Sinon, on part à volo. 8. Ah! Oh! les sénateurs qui ne veulent pas qu'on taxe les ultra-riches. En France. Article très intéressant dans Libération. Pourtant, ça aurait apporté des sous, ça. Alors, c'est page quoi, ça? 17. Les députés avaient dit oui, les sénateurs ont dit non. Tiens donc. Les sénateurs rejettent la taxe Zucman sur les ultra-riches. On va définir tout de suite les ultra-riches, parce que dans un instant, va pop dans le chat une question. Mais c'est quoi un ultra-riche? C'est à partir de 100 millions d'euros de patrimoine. Si tu as 99,99 millions d'euros de patrimoine, tu n'es pas un ultra-riche. Tu es juste un riche. À partir de 100 millions, tu es un ultra-riche. Ok? Ça, c'est pour la def. Malikoum salam. Alors, lisons. Il y a un précédent historique que l'économiste Gabriel Zucman, professeur de Berkeley en Californie et aussi à l'école d'économie de Paris, aime à rappeler ces derniers temps. En 1909, la Chambre des députés, en France, on remonte un petit peu dans le passé, adopte l'impôt progressif sur le revenu, l'impôt sur le revenu, l'IR, qu'on connaît très très bien. Voilà. Les députés votent pour l'IR. Mais le Sénat, à majorité conservatrice à l'époque, a bloqué le texte pendant plusieurs années. S'il n'est pas dit que l'histoire se répète, il va falloir en tout cas patienter, nous rappelle Libé, avant que un nouvel impôt naisse en France, un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches en France. 2% pas sur les revenus. Hein. 2% sur le patrimoine. Ce n'est pas 2% de ce que tu gagnes tous les ans, c'est 2% sur le patrimoine. Sur ce que tu as, un impôt plancher. Voilà. C'était le projet que, voté par les députés et les sénateurs, donc la chambre haute du Parlement français, vient de dire non. Son principe a été pourtant largement adopté par l'Assemblée nationale en février, mais jeudi, une majorité de sénateurs l'ont rejeté. Ah, mon amoureuse m'écrit. Je lui réponds. Donc les députés ont voté oui. Voilà. C'était une proposition de loi au Sénat portée par le groupe Les Écologistes à l'Assemblée. Voilà. Et cette proposition de loi a été écartée par les sénateurs, 188 voix contre 129 pour. Le dispositif fiscal inspiré par les travaux de Zucman aurait conservé environ 1 800 personnes, voilà, en France. Pas beaucoup de monde, mais pourtant ils ont des soutiens, puisque dans le chat il y a déjà des gens qui lèvent la main en disant oui, c'est un scandale, vous vous rendez compte, c'est sur le patrimoine, 2% tous les ans, mais c'est énorme, enfin, mais qu'est-ce qui va rester à ces gens qui n'ont que 100 millions d'euros de patrimoine, vous vous rendez compte, c'est quand même un scandale, voilà. Ils sont que 1 800, mais ils ont quand même des soutiens, ce qui est assez intéressant. Hein, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que la loi n'est pas passée. 1 800 personnes au patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, les pauvres! Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avec 100 millions d'euros? Mais plus rien! Les pauvres! Je comprends qu'il faille les protéger. Donc, on parle de 0,01% des contribuables. Et cet impôt, cette taxe Zucman, aura rapporté énormément d'argent. Alors, moi qui suis les sujets fiscaux avec beaucoup d'intérêt, parce que bon, bah, c'est le nerf de la guerre, hein. Le budget d'un pays, d'un État, c'est ce qui permet d'investir éventuellement après dans plein de choses, l'éducation, la sécurité, etc. Donc il faut des dépenses, mais il faut aussi des recettes. Voilà. Le gouvernement français actuel, le gouvernement Bayrou, il cherche 40 milliards d'euros d'économies. Cette taxe Zucman aurait rapporté entre 15 et 25 milliards. C'est gigantesque. C'est gigantesque. Donc c'était déjà une partie de la réponse au problème. Il aurait permis également de faire en sorte que les plus riches paient proportionnellement autant d'impôts que les autres contribuables. Oh, cette phrase est affreuse. Alors, après, je vais parler du fait que ce patrimoine, souvent, il est professionnel, et c'est un des arguments des gens qui refusent cette taxe en disant, oui, mais vous vous rendez compte, c'est pas vraiment du revenu, c'est de l'argent, c'est de l'entreprise, vous allez vous taxer les chefs d'entreprise, et du coup, ils vont partir, on va parler de tout ça, vous inquiétez pas, on va parler de tout ça. Voilà. Mais cette taxe aurait permis de faire que ces plus riches, ces ultra-riches, ils sont 1 800, paient proportionnellement autant d'impôts que les autres contribuables. Parce qu'en fait, ces ultra-riches payent proportionnellement moins d'impôts que les autres contribuables. De la même manière que les petites sociétés en France, les PME, payent proportionnellement plus d'impôts que les grosses entreprises. Pourquoi ? Parce que les ultra-riches, comme les très grosses entreprises, savent s'organiser, savent être conseillés pour s'arranger dans le cadre de la loi, pour optimiser, c'est l'optimisation fiscale, pour, bah, par exemple, pas trop sortir l'argent, en fait. Voilà. Et le lisser en dividende dans l'entreprise. Voilà. Et comme ça, ça ne sort pas, c'est pas taxé, de toute façon, ils n'en ont pas besoin. Voilà. C'est l'une des façons. On va en parler de tout ça. Et du coup, ces plus riches paient proportionnellement moins d'impôts que les autres contribuables. Cette anomalie a été mise en évidence il y a 2 ans par des chercheurs en France de l'Institut des politiques publiques. Pour cette petite catégorie de la population, les taux effectifs d'imposition deviennent décroissants. Notamment parce qu'une grande partie de leurs revenus économiques logés dans des holdings échappent à l'impôt sur le revenu. Voilà, ça a été démontré en France, également dans plusieurs autres pays européens, on n'est pas les seuls. Mais voilà, les sénateurs de droite et du centre, ainsi que le gouvernement, ont recyclé les arguments que les promoteurs de la loi avaient tenté de déconstruire un par un, à commencer par celui du risque d'exil fiscal. Le fameux argument, mais si on taxe les très très riches, ils vont partir. Et en fait, ça va nous coûter plus d'argent que ça va en rapporter. Là aussi, des études montrent que ce phénomène existe, ça arrive, mais qu'il reste marginal. Il y a très très peu en fait de gens qui réellement s'en vont avec leurs milliards de la France pour échapper à l'impôt. Voilà. Parce que la France est un trop beau pays, exactement. Donc ça existe, mais des chercheurs ont montré que c'était très peu de gens. À la tribune, Amélie de Montchalin, la ministre chargée des comptes publics, a déclaré ne pouvoir tolérer une réforme qui provoquerait des expatriations certaines pour un rendement incertain. Donc la ministre a repris ce fameux argument, qui a priori est nié par les chercheurs. Le rapporteur de la commission des finances, Emmanuel Capus, Horizon, a remis en cause la méthodologie des chercheurs, donc pour lui les chercheurs ont mal cherché, dénoncé les faiblesses d'ordre constitutionnel ou économique, affirmé que cet impôt dissuaderait la création de nouvelles entreprises, et préconisé de baisser les impôts de tout le monde. Voilà. Mais il n'y a plus de sous là. Il n'y a déjà plus de sous et le mec il veut baisser les impôts de tout le monde. Ok, moi je dis ça, je dis rien. Quelques centristes se sont néanmoins laissés convaincre, à l'image du sénateur du Cantal, Bernard Delcros, à un moment où on appelle les Français à faire un effort pour redresser les comptes publics, les plus grandes fortunes doivent faire un effort de solidarité à la hauteur de leurs capacités, expliquait-il juste un peu avant le vote. Ce sont de dangereux radicaux ces centristes. Hein. Non, pas Velcros, Delcros. Dangereux radical centriste, qui estime que les plus riches doivent faire un petit effort. Il dit aussi, c'est une mesure de justice fiscale nécessaire, on ne résoudra pas la question de la fuite en avant de l'endettement uniquement en réduisant les dépenses. Le sénateur communiste du Val d'Oise, Pierre Barraud, s'appelle lui à continuer ce combat juste. Ne pas considérer le problème d'équité par rapport à l'impôt n'est plus défendable. Si cet impôt plancher interrompt son chemin parlementaire, il est toujours discuté dans les enceintes internationales. Il rallie aussi de plus en plus largement en France parmi les économistes avec notamment Olivier Blanchard et Jean Pisani-Ferry. Voilà. Si ce soir, je le dis solennellement, je vous prends un témoin, vous êtes très nombreux. Si ce soir je gagne les 250 millions d'euros et donc je rentre dans ce petit club d'Happy Few des 1800 Français qui ont un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, je m'engage solennellement à quitter le pays. Non, bien sûr que non. À payer les 2% là. Ça va. Normalement, si je me débrouille bien, les 100 millions, si je les place, ils vont me rembourser plus de 2% par an. Oui ou non? 2%. Si je les place correctement, je devrais les retrouver, mes 2% par an. Normalement. Voilà. Bon, je les paierai, il m'en restera. Alors. Qu'est-ce que je fais avec les 200 millions? J'investis. Vous savez, il y a des streamers là, qui font des événements de fous, des événements incroyables, des événements qui créent du lien là. Hein, avec des grosses productions et tout. Ben, moi, je fais ça, moi. C'est parti, avec Joe, let's go, quoi. Et je fais un don au Joe à l'humanité aussi. Voilà. Et on, voilà, un truc comme ça et tout. Tu peux pas nous enfiler un peu? Non, c'est tout pour ma gueule, tout pour ma gueule. Voilà. On crée des LAN, on crée des trucs, des machins et tout. Non, mais en vrai, ça va, 100 millions d'euros, les gars. J'ai une question. Où finissent tous les journaux que tu as achetés? tu veux dire les journaux que je télécharge sur ma tablette? Où est-ce qu'ils finissent? C'est-à-dire que par rapport au gaspillage du papier, c'est ça? Est-ce que les journaux que je télécharge sur ma tablette, je les mets bien dans la poubelle du papier? Pour le recyclage, c'était la question. Merci Nosarachi TV pour ce très gentil raid. On va aller voir la gentille chaîne qui nous arrête. C'est-à-dire, alors je vais répondre à cette question. Ce que je fais des journaux en format numérique PDF que je télécharge, après le stream, je les imprime. Je les imprime. Voilà. Et après, je les recycle. Parce que je suis très soucieux de ces sujets. Voilà. Je remercie la chaîne qui vient de nous raid à l'instant. Voilà. Que je ne suis même pas, ce que je corrige aussitôt. Nosarachi TV, excuse-moi. Voilà. Voilà. Je suis allé voir ta bio pour voir ce que tu faisais. Tu fais quoi? Tu fais quoi de beau sur ta chaîne? C'est pas marqué? Noza, je te vois, je te vois. Racontez-moi ce que fait Noza sur sa chaîne. Je crois que c'est une streameuse. Je vois. The Crew Motorfest? Kizako. Noza, dis-moi, ça m'intéresse. Ah non, je regarde quelqu'un d'autre là. Ah ça c'est... Ah oui, c'est recommandé. Ah oui, Noza il est là. Ok, je l'ai. Ça, je viens de comprendre. Ok, Noza il est là. Alors, Noza, on va voir son visage peut-être si on va sur les vidéos. À moins que ce soit Sub Only. Non, il est là. Il a des lunettes de soleil. J'ai vu qu'il avait des lunettes de soleil, j'aime bien, j'aime bien. Un jeu de voiture? Ah, The Crew, c'est un jeu de voiture? J'aime les jeux de voiture. On attend la pub là. The Crew Motorfest, Splitgate 2, Battle. Merci Noza. Ok, Crew Motorfest, Splitgate 2, Battlefield 6, Borderlands 4. Beau gosse.
Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, bienvenue sur ce live Splitgate 2.
Eh, beau gosse ou pas? Beau gosse. Ok, je te follow maintenant. Espèce de BG, va. Il y a un flow, il y a un flow. Quelle heure il est? Je suis bien, je suis bien, je suis bien. C'est un peu, il y a un petit, ouais, il y a un petit look PV Nova, ouais. Pour ceux qui ont la ref. Attendez, c'est pas fini, le stream n'est pas terminé. Je regarde l'heure, j'ai rendez-vous, faut que je parte. Je peux encore. Si je pars à 14h de la maison, je suis dans les temps. Je vérifie, j'ai un rendez-vous à France Télévisions, mais je suis dans les temps, je crois. De rien, nous a. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du patrimoine de ministre, on va aller voir ça. À quelle heure est mon rendez-vous? Je vous cache mon agenda de ministre. À 14h, bon, si je pars à France Télévisions. Attends, je regarde si j'ai pas reçu un mail là-dessus, moi. Non, faut que je sois 14h30 sur place. Ça, je vérifie quand même. Vous m'en voulez pas? Je vérifie mon rendez-vous. Oui, je suis dans les temps, je crois. Il manque un peu de rigueur. Ah non, c'est pas avec Delphine le rendez-vous. J'aimerais bien, en vrai, mais. Alors, pardon, j'ai un message audio de Bruno Guillon. Je coupe le micro. C'est quelqu'un que j'adore. De 10h47, l'animateur Bruno, qui est un mec formidable. Ah, je coupe là, parce que je vais écouter ça tout de suite. J'aimerais tellement vous le faire écouter. Vous comprendrez à quel point ce mec est un mec génial. Bruno Guillon. Pas l'autre Guillon, là. Comment il s'appelle le pas drôle, là. Comment il s'appelle l'humoriste qui est méchant, là. On m'appelle toujours. Il y en a un qui est méchant. Stéphane Guillon, voilà. Confondez pas avec Stéphane Guillon. Bruno Guillon, l'animateur. Ce mec est d'une gentillesse. Pas Stéphane, Bruno. D'une gentillesse. Là, j'aimerais tellement vous faire écouter ce message. Le mec, il est gentil, il est sympa. C'est vraiment un mec formidable. Et là, il me propose un petit truc de taf. Je vais évidemment lui dire oui. Voilà. Voilà. Alors, certains disent que t'étais pas mute. Ok, dites-moi de quoi parlait la proposition de Bruno. Non, Poulpe au Breton, Stéphane Guillon, c'est une personne très dark. Moi, je l'ai côtoyé un petit peu. Je peux dire que ce n'est pas une belle personne. Voilà, je le dis de très peu de gens, mais je le dis de lui sans problème. Un porno? Non. De découvrir l'e-sport? Non. Il parlait un truc de fou? Oui. C'est pour une émission? Non. Ok. Une collab sur Interville? Non. Ok, vous l'avez pas. Selon ton point de vue, tu as rencontré Stéphane Guillon personnellement, la carotte aigrie? Question à la carotte aigrie. Tu as rencontré personnellement Stéphane Guillon ou pas? Ou tu connais juste ses sketchs? Attends la réponse. Si on doit rencontrer perso tous les gens pour les juger, alors. Merci pour ta réponse. Alors. Klamakin is back, je l'ai vu en spectacle, quelle horreur c'était. Bon, bah Klamakin ne l'a pas rencontré personnellement, mais je trouve quand même que c'est une horreur. Ok, let's go. On continue. Donc, alors, attendez, je voulais vérifier si j'étais en retard à mon rendez-vous ou pas. Non, franchement, non. Un berk. Alors, regardons si je suis en retard sur mon rendez-vous. Ok. Qu'est-ce que je tape? Qu'est-ce que je tape? Emmanuel. Savoir si je peux poursuivre un petit peu la revue de presse. Ah, je l'ai. Ok, c'est bien noté. Rendez-vous. Et là, je vois rendez-vous à genre 13h, tu vois. Quoi, la liste d'objets prévus? Quoi? Ah, j'ai eu peur, je pensais qu'il fallait que j'amène des objets. 14h30. Non, c'est bon. C'est bon. On peut continuer. Non, j'ai un truc de fou à vous lire. On va cut à 13h30, ok? Comme ça, j'ai le temps de prendre une douche. Ah ouais, une demi-heure, c'est rapide, remarque. Bon, je me suis rasé. Fait tellement chaud. Ok, d'accord. Un dernier article. Tiens, bon, vous savez quoi, on va faire les... On va faire... j'aurais voulu faire... On fait les patrimoines des ministres. Putain, j'ai envie de vous faire deux trucs. Non. Écoutez... J'ai le temps là, 30. 14 heures. Ouais, j'ai le temps. Non, il y a un truc dont je vous. Il y a un titre très très long, mais j'ai peur de manquer de temps. On fait les ministres? Bon, on fait les ministres. Ok, vite fait. Ok? Ok. Et il y a un autre article passionnant que je mets de côté pour demain. Ok? Tu lâches pas la carotte aigrie. Hein. J'adore. J'aime. Hop, je range ça. Et on va aller voir ça de patronne des ministres. Bah, le bac de français, le bac de français, on a zappé aussi. Ouais. Alors, patrimoine des ministres. Ça, c'est vous qui me l'avez soufflé. Soki, on est un petit peu sur une fin de live, ouais. Alors. Gouvernement Bayrou, plus de la moitié des ministres sont millionnaires. Ah, c'est pas mal. Selon la déclaration de patrimoine. Article du Monde. Le gouvernement actuel figure parmi les plus fortunés depuis 2017. Ah oui, demain c'est MVP, c'est vrai. Avec 22 ministres millionnaires selon les déclarations de transparence rendues publiques. Combien sont ultra-riches? Aucun. Donc il faut passer les 100 millions d'euros. Voilà. La tendance ne fait que s'accentuer depuis 2017. Sous la présidence d'Emmanuel Macron, les ministres sont de plus en plus riches. Le gouvernement actuel compte 22 millionnaires sur 36 membres, d'après les déclarations d'intérêt et de patrimoine rendues publiques mardi par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ouais. Salut Noza. Merci à toi. Voilà. Ah, vous voyez la courbe là. Le nombre de millionnaires dans le gouvernement. Du gouvernement Valls à gouvernement Philippe, Borne et Bayrou. D'après les calculs du Monde, les ministres du gouvernement Bayrou possèdent un patrimoine moyen de 2,9 millions d'euros. 2,5 si tu enlèves les dettes. Marc Ferracci, ministre chargé de l'industrie et de l'énergie, apparaît comme le plus fortuné. Son patrimoine est estimé à 23 millions d'euros, principalement constitué de parts non cotées dans Icare Finance, entreprise d'expertise comptable dirigée par son père, dont il détient 35% du capital. En deuxième position, le ministre de l'économie, Éric Lombard, avec 21,7 millions d'euros de patrimoine, dont quelques 8 issus de 4 biens immobiliers, 2 maisons et 2 apparts. C'est pas mal. Si ces deux patrimoines exceptionnellement élevés tirent la moyenne vers le haut, okay, le gouvernement Bayrou se situe dans son ensemble largement au-dessus de ses prédécesseurs, avec un patrimoine médian net de 1,1 million d'euros contre moins de 660 000 euros seulement pour le gouvernement Borne. On a le détail là. Rachida Dati sur le podium, presque 6 millions. Voilà. Qui on a là? La pente descend, hein. Borne, que 1,7 million, hein. C'est pas. Bayrou. Bayrou. C'est le Premier ministre, mais il n'est pas du tout top 1. Hein. Rachida en légende, oui, on peut dire ça. 1,2 seulement. Déçu là. Et Emmanuel Valls. Donnez-lui des pièces. Attendez, si vous croisez Emmanuel Valls dans la rue, mais donnez-lui quelque chose. 131 128 euros. Mais il faut faire une collecte. Faut faire une collecte. Peut-être que le monde en parle. Rachida Dati, donc pour les revenus, a déclaré 2,3 millions d'euros de revenus en tant qu'avocate entre 2020 et 2024. La ministre de la Culture, qui possède également des participations dans 36 entreprises. Airbus, Dassault, Thalès, Total Énergie. Manuel Valls ne déclare posséder aucun bien immobilier. Certains dans le chat me disent qu'ils sont plus riches que Manuel Valls. Salut Clamakine. Merci pour ce matin. Les ministres de François Bayrou se placent quasiment tous parmi les 5% des Français les plus riches, avec les revenus les plus importants. On est sur les revenus, pardon. Sur les mandats, sur les revenus des 5 dernières années. Ok. C'est ce monsieur. Ah, c'est ce monsieur. Ah, c'est Éric Lombard, lui. Je connais pas bien les derniers, moi. Et Pécresse. Alors, je suis pas bien au courant du gouvernement, mais j'ai l'impression que Valérie Pécresse n'est pas au gouvernement. Puisqu'on parle du patrimoine des ministres. Hein? On est d'accord? Elle est pas dans le gouvernement? Si, ou j'ai raté un épisode? Sacré Valoche, comme dit Joa Canuche. Ok. Ah oh, bon, là, vous avez même le site, hein, vous avez même le site. Hein. Là, c'est public. Hein. Voilà, vous pouvez cliquer. On peut cliquer Bayrou, on a même le détail. Ah la vache. Waouh. PDF, tu peux mettre le PDF et tout, quoi. Salut, l'intro trop. Oh, l'intro trop. L'intro trop. Trop, trop rigolo. J'adore. Chez Benito, vient oh, info dernière minute. Zerator vient d'annoncer. C'est Chez Benito qui donne l'info. Info Zerator. Quand Zerator annonce une info, c'est toujours important. Zerator vient d'annoncer que le prochain The Event sera dédié à Manuel Valls. Merci pour cette info. Putain, quel grand cœur il a quand même. Mon Zera. Vous avez tout en fait, il y a juste à télécharger. Ouais. Toujours. J'ai hâte. J'ai hâte de participer à ce The Event. J'espère que je serai invité. La régalade, j'ai envie de dire. Bourrez les dons pour Manuel Valls. C'est l'armée des 1 euro. Merci Guy Broche pour tes 10 balles. Coco PB 76, merci pour tes 100 balles. Merci quoi le gros pour tes 1000 balles pour Manuel Valls. Oh là là, la dinguerie. Mais... je veux voir Antoine Daniel crier 1000 balles pour Manuel Valls. Voilà. Oh, Samuel Etienne qui s'est déguisé en canard géant gonflable. Incroyable. Ah, ce serait drôle. Bon, alors désolé, j'avais d'autres infos à mettre en avant, notamment le bac français, bon, qui est toujours un bac important, nous disait le Parisien ce matin, et surtout une enquête sur les violences policières dans Libération que je vous mets de côté parce que l'article, l'enquête est une masterclass. Et je vous la mets de côté et je la laisse sur mon bureau et je prends l'engagement de vous lire cette enquête. Pas demain, puisque demain je serai en direct de VivaTech. Je vous rappelle ça. Venez sur le stream, il va être vraiment sympa si vous vous intéressez à la tech. Voilà, on est en direct de VivaTech avec l'équipe de MVP. MVP, c'est mon émission sur Twitch deux fois par mois, le mercredi à 18h. Exceptionnellement, on l'a fait aussi samedi. On va se promener en VivaTech, le salon de la tech, les tendances de la tech, les emplois dans la tech, puisque MVP, c'est demain, Valro, c'est demain à 10h, 14 juin. Voilà. Pas la tech tonique, hein, la technologie. Voilà. Pourquoi il hurle 10 points? Parce que je sais pas. Pourquoi est-il si méchant? Je ne sais pas. Vous savez, il est vieux, il est un petit peu énervé. En plus, il boit du Red Bull. Et donc, à partir de 10h, on sera avec les amis Ludovic B, avec Estherium, qui est une spécialiste, une créatrice de contenu sur l'IA, avec Micode, que tout le monde connaît, il y aura même Pépé Garcia également, et on va se promener dans les allées de VivaTech, et on sera sur la grande scène, on va parler entre nous avec des spécialistes, des emplois notamment dans la tech, puisque MVP, c'est l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne. Ok ? Je vous retrouve demain, donc il y aura les prochaines revues de presse lundi, et je prends l'engagement que cet article sur les violences policières, je vous le lirai lundi parce que l'article, il est fou. Oui, Matteï, on en a parlé, mais en début de semaine de la flottille de Gaza, déjà. Par contre, on a consacré 2 heures aux frappes d'Israël contre l'Iran et la situation des Palestiniens ce matin. Tu l'as en replay. Qui est en live ?
Qui est en live ?
Qui est en live ? Oh, j'ai plein de propositions de raid là. Attendez, je vais voir. Proposition de raid. Plein de propositions de raid. Je vais aller voir. Underscore. Je vais voir. Ok. Ça a l'air cool. Ok. Bah écoutez, c'est très subjectif une proposition de raid. Parce qu'il y a plein de propositions et en vrai elles sont toutes pertinentes. Ici on essaye de raid les amis bien sûr et aussi des créateurs de contenu que je ne connais pas, que je ne suis pas, mais que je vais suivre. Voilà. Parfois avec pas encore beaucoup de viewers, comme là il y a déjà 175 viewers sur la chaîne qu'on va raid, ce qui est en vrai une vraie déjà une communauté. Il y a des streamers et des streameuses qui rêveraient d'avoir 175 viewers, donc c'est pas proprement parler une petite chaîne, mais on va être encore plus nombreux. Et en plus c'est du GTA, du GTA RP, ce qui est plutôt pas mal en vrai. Ok. Et donc la chaîne c'est Gorilla underscore CEE, Voilà. Et on est sur du GTRP. Le garçon a l'air hyper sympathique. Et je le raid tout de suite. C'est une proposition GDS Matteo. Hop, let's go. Gorilla. Voilà, c'est parti. Du GTRP. C'est cool ça. Merci d'avoir été aussi nombreux ce matin. Merci de participer à cette discussion sur l'actualité qui n'est qu'une discussion. Voilà, encore une fois, les avis, les opinions que j'émets, ce ne sont que mes avis, que mes opinions. Et vous êtes là pour les challenger, bien sûr. C'est parti pour le raid. Et je vous dis à demain matin, 10h au plus tard. Est-ce que je vais lancer un stream d'ici là? Je ne sais pas, c'est un peu chargé. Notamment, il faut que je bosse sur l'émission de demain matin. À demain matin au plus tard. Merci encore. Ciao, ciao. C'est parti pour le raid. Ça part dans 5, 4, 3, 2, 1. Et oui, 18h10, question pour un champion sur France 3, bien sûr. Mais là, on n'aura pas le chat.
Il y a plein de personnes qui te lavent. Ouais, mais c'est parce que je suis plus en course poursuite, Johan, c'est comme ça. T'as vu, en fait, TikTok, t'es sur une grosse poursuite. T'as là, on est monté à 700, presque 800. Mais là, plus de poursuite, les gens, ils se cassent. C'est comme ça, TikTok, les gars. Faut pas compter sur TikTok. Voilà. Faut pas compter sur TikTok. Mais Zepi, Samuel Etienne. Samuel Etienne, Zepi, incroyable. Incroyable. Allez, raid de Samuel Etienne.